Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction complètement incroyable. Aujourd'hui, émission 156, oui mes amis, 156e podcast de l'histoire du monde,
du aussi, jeu vidéo.
Parce qu'effectivement, le podcast de Gameblog existe depuis maintenant quasiment 4 ans, hein, quasiment 3 ans et demi à peu près. C'est le 156e podcast, bien sûr, je l'ai déjà dit. Mais c'est surtout un grand moment dans les podcasts de Gameblog, puisque c'est un nouveau rendez-vous auquel vous allez assister aujourd'hui. Il s'agit, car nous vous avons écouté, du courrier des lecteurs.
Ça me rappelle des souvenirs.
Ça me rappelle des souvenirs intenses.
Alors à l'époque, sur Joypad, sur PlayStation Magazine, dans gaming, eh bien c'était à l'écrit. Eh bien aujourd'hui, ce sera à l'oral. Et oui, vous l'avez vu, on va vous poser chaque mois, eh bien vous donner l'opportunité de vous poser des questions.
À nous.
Voilà.
Qui vont nous poser des questions.
Je suis fatigué. Hein.
Il y a comme un bug.
C'est ça. Vous allez pouvoir nous poser des questions.
Ah d'accord.
Lancer des débats et bien évidemment
débat d'idées, bien sûr,
y répondre
peut-être,
que ce soit à la fois sur le jeu vidéo, que ce soit aussi sur Gameblog, même si on souhaiterait quand même que ce soit essentiellement sur l'actualité du jeu vidéo, hein, c'est ça qui nous anime tous et nous passionne, mais à chaque fois on aura une petite section à la fin où on parlera un petit peu de la vie de la rédaction et de certaines choses qui vous plaisent et d'autres qui vous plaisent un petit peu moins. Voilà, c'est un podcast, vous le verrez, totalement sans langue de bois, et donc c'est le premier de cette longue lignée des courriers des lecteurs version podcast. Alors messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Il y a Raon, il y a Julo, il y a Traz, il y a Tiger qui arbore un magnifique
chapeau. Bien le bonjour.
Quelle est cette... Elle sort d'où cette classe, Tiger?
C'est Michael Jackson, bien sûr.
C'est un chapeau que j'ai acheté sur Venice Beach à Los Angeles.
Oh là, comment je me la pète.
Quel suffisance.
Voilà, une première question qui a sa réponse, donc.
Voilà.
Voilà. Allez, on va commencer directement. On a sélectionné plusieurs dizaines de vos questions. Vous ne nous en voudrez pas, hein, pour ceux qui on ne répondra pas dans ce podcast. Et vous avez été particulièrement nombreux, hein, plus de 6 pages de forum en quelques heures. Et donc, on va commencer avec la question de B2O Almenda. Alors aussi, attention, warning, si je prononce mal votre pseudo. J'en suis fort marié et fort
donc
désolé.
Donc, il habite au... Pardon,
ouais. Donc, à l'avenir, n'hésitez pas, s'il y a une prononciation particulière, vous le mettez entre parenthèses, genre phonétiquement parlant,
voilà.
Comme ça, on ne les écorchera pas. Alors,
B2O, va y avoir des sales blagues avec ça.
Ça risque. Alors, B2O, en fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est pour ça qu'on voulait commencer avec. C'est assez, je l'ai sélectionné, c'est assez rigolo. Il dit: pourquoi je préfère PES 2011 à FIFA 11? Parce que PES 2011 me rappelle ma copine, c'est-à-dire avec plein de défauts, mais tellement de charme. Alors que FIFA 11 me fait plus penser à Beyoncé ou Shakira, certes très belle, mais sans défaut apparent, et donc trop parfaite et lisse pour me faire craquer.
J'ai une réponse, moi, même si je joue pas au foot. Bah, je préfère quand même Beyoncé à ta nana, je l'ai pas vu. Mais...
Oh, ça sert à rien, justement.
C'était l'angle du test de Robir, ça.
Tout à
je
fait.
Crois que c'était pour le.
C'était la trahison 2010, de sa copine.
La trahison, ouais.
Pour aller avec la blonde bimbo.
Un peu chiant, bon, il est allé avec.
Avec la bimbo.
En tout cas, vous avez vu qu'à la rédaction de Gameblog, effectivement, on a bien noté, bien souligné et apprécié les efforts de PES 2011.
Oui.
Mais c'est vrai que FIFA 11 reste d'une richesse incomparable et d'un plaisir de jeu aussi qui atteint quand même des sommets. Et c'est vrai que si vous adorez le foot, prenez les deux, essayez les deux, faites-vous votre propre avis, car le football, c'est pas une science exacte, hein, le feeling de l'un et le feeling de l'autre n'est pas le même. Certains préféreront un PES, certains un FIFA. Mais c'est vrai que si vous n'avez qu'un titre à acheter... Et la rédaction de Gameblog vous conseillerait plutôt FIFA 11.
Et toi, personnellement aussi? Je suis sûr que les gens veulent le savoir. Toi qui étais le dernier bastion PES.
C'est ce que j'ai dit. J'aime beaucoup les efforts qui ont été faits sur ce PES 2011, mais c'est vrai que le FIFA 11, là, je sais pas, c'est le travail de sap d'année en année, etc., fait que l'ambiance générale, la richesse de mode de jeu, de gameplay, les animations font que je penche cette année pour FIFA 11.
Mais c'est normal, hein.
Même
voilà,
si j'apprécie
qui est dit.
Beaucoup PES 2011, bien évidemment.
Comment tu retournes ta veste, c'est honteux.
Je retourne pas ma veste.
Non, mais quelque part, c'est normal, c'est dans la logique des choses, c'est le challenger qui fait tout pour rattraper le leader, et puis au bout d'un moment, il va le dépasser. Voilà, c'est super beau ce que je viens de dire. Question suivante.
Allez, question de Batingle. Alors, question beaucoup plus sérieuse, hein. Là, c'est une vraie question. L'affaire Medal of Honor. Alors, vous le savez, les développeurs qui ont enlevé le nom des talibans. Avez-vous un avis sur cette affaire? Et c'est une question qu'on va relier avec une autre, celle de Inc, qui nous parle en fait de la censure dans le jeu vidéo. Pourquoi ce média est-il une cible si facile aux censeurs? Quel intérêt de s'insurger sur un oui et un non, ou un non, et à part brider la créativité et la liberté scénaristique des développeurs. Alors on va commencer avec l'affaire Medal of Honor, et donc la disparition des talibans. On resitue un petit peu, Raon ?
Oui, bah c'est tout bête. Dans le mode multijoueur qui se joue exclusivement en mode par équipe, il y a l'équipe des US et l'équipe des opposants des US qui se trouvaient être les talibans et être nommés comme ça. Ils ont choisi, suite à... C'est pas vraiment des... plainte, mais enfin c'est une protestation, on va dire, des familles des soldats qui sont toujours, il faut le savoir évidemment, enfin j'imagine que tout le monde le sait, mais bon, c'est bien de le repréciser, la guerre continue en ce moment même, donc c'est un sujet d'actualité. Était un petit peu choqué du fait qu'on puisse proposer à des joueurs d'incarner des talibans qui allaient tuer des soldats américains.
Il y a eu une grosse polémique, j'avais fait une news là-dessus, il y a même le ministre de la défense anglaise qui s'était mêlé à tout ça, disant que le jeu devait pas être autorisé à la vente, que c'était pas possible de mettre des talibans dans un jeu. Et j'avais linké dans la news des interviews de soldats US en fait qui étaient assez intéressantes. Moi je pensais qu'en les lisant il y aurait pas photo,
ils disaient quoi en substance?
En fait les types disaient que dans chaque camp il y a les méchants et les gentils, et que de représenter les deux camps finalement c'est normal, et que il y a cette idée aussi, c'est déjà arrivé dans l'histoire, cette conception des choses comme quoi, par exemple avec les nazis, que même si on partageait pas leurs idéaux, ils doivent être quand même représentés, parce que voilà, c'était des êtres humains qui se battaient pour des convictions et ce genre de choses. Donc les soldats US avaient un point de vue en fait assez intéressant là-dessus, et étaient pas dans la polémique du genre non, c'est
finalement
pas possible de mettre des talibans.
Finalement plus distanciés, avec plus de recul eux-mêmes, alors qu'ils ils étaient sur le front.
C'était très étonnant parce que eux, ils ont vraiment vécu le conflit, et visiblement qu'il y ait des talibans nommés en tant que tels dans un jeu, ça les choquait pas plus que ça.
Mais c'est vrai quand même qu'on peut reconnaître que ça puisse choquer certaines personnes de voir que un jeu vidéo, donc un divertissement du ludisme, s'inspire directement et est dans l'actualité avec un fait de guerre qui est en cours encore, alors que quand c'est la guerre 45, on revisite l'histoire finalement.
Mais il y a deux choses par rapport à ça en particulier. Déjà, d'une part, il faut, à mon avis, quand même resituer Medal of Honor. C'est un jeu qui est censé normalement être un peu plus réaliste, mais enfin, c'est pas non plus. Ça reste quand même grosso modo un Modern Warfare-like, un FPS assez classique dans l'ensemble, c'est même très classique, surtout aussi en multi. Personnellement, ça me gênait pas particulièrement qu'ils aient nommé l'équipe adverse des talibans, puisque maintenant elle s'appelle genre force d'opposition ou un truc comme ça, tu vois, ils passent partout. Mais on se souvient de l'affaire de Six Days in Fallujah, qui était pour le coup un projet qui en tous les cas se voulait vachement plus sérieux et plus documentaire, genre un docu.
C'était l'héritier Medal of Honor d'ailleurs, un peu effectivement.
Et ça par contre, ça a été
balancé aujourd'hui, quoi.
Et ça se passait là en Irak, c'est quoi?
Personne n'a eu le courage de l'éditer au final. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait
7 ans, et puis
Konami aurait dû l'éditer.
Ils ont commencé des présentations, il y a eu une telle levée de bouclier qu'ils ont lâché l'affaire.
Et ben moi je vais vous dire, ça me choque fondamentalement cette histoire des talibans, parce que.
Le quoi? Le fait qu'ils l'aient mis ou qu'ils l'aient
retiré?
Moi aussi d'accord, vas-y.
C'est que dans le jeu en lui-même, dans la campagne solo, on affronte, on est le tier 1, on est américain, on affronte les talibans, bon certes, là ça n'a pas été retiré, on entend clairement parler des problèmes avec les talibans, donc il y a une cohérence globale dans l'univers du jeu, on le sait directement.
Mais ce qui les choque, c'est de pouvoir les jouer justement.
Très bien, mais c'est quelque chose de cohérent, et ça me choque tout autant. Qu'avec par exemple Inglourious Bastard, où on avait vu les croix gammées supprimées de toute affiche, alors qu'à l'intérieur du film, un film sur les nazis, avec des nazis, avec Hitler, etc. Ce monde aseptisé qui n'ose affronter la réalité en face, ou en tout cas la cacher derrière un espèce de petit tapis, moi je trouve qu'on peut,
je suis super d'accord avec toi,
on peut plus rien faire, ça devient lisse, ça devient chiant. Et effectivement, comme le dit Inc, les histoires de censure dans le jeu vidéo, et on le voit, la censure est en train de toucher un peu tout, où on s'offusque de tout et de rien, et souvent de petites choses d'ailleurs, de petits détails. Là c'est les talibans, c'est la guerre, il y a des morts, c'est beaucoup plus sérieux, mais plein de fois on entend des gens qui s'offusquent de micro faits, et on ne peut plus rien dire, quoi. Ça m'énerve.
Non, mais moi, ce qui m'offusque aussi dans cette histoire, c'est qu'on est toujours on voit toujours le point de vue du côté des Américains, des Anglais, des Occidentaux. Mais les Afghans, dans tout ça, ils en pensent quoi?
Les Afghans, PS3 et de Xbox,
les Irakiens. Mais pourquoi?
Non, mais il a raison
absurde
de souligner.
Pourquoi quelque part là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui joue à ce jeu-là et qui se dit mais pourquoi il n'y a pas les talibans? Après, je ne parle pas du côté politique, qui a tort, qui a raison. De toute façon, dans ces guerres, il y a toujours des cons partout. Donc,
et puis c'est faux cul,
c'est pas un souci, mais c'est hyper hypocrite, quoi.
Les forces, donc ils les appellent comment maintenant?
Les forces d'opposition.
Les forces d'opposition.
Voilà, c'est ouvertement des talibans. C'est-à-dire que ils sont modélisés comme les talibans qu'on retrouve dans le jeu. Donc
En même temps, je suis pas sûr, pour rebondir sur ce que vient de dire Otraz, que les Afghans aient forcément envie de jouer les talibans. Parce qu'il y a quand même une sacrée nuance entre les deux, quoi.
Enfin, ça, j'en suis pas sûr, j'en sais rien du tout.
Non, bon, on va pas faire un sondage.
Voilà, exactement. Il y a peut-être des joueurs occidentaux qui vont jouer les talibans, comme il y en a partout dans le monde arabe, etc. Enfin,
non, mais de toute façon, ce qu'on
mais
sait.
Je sais pas pourquoi on est manichéen là-dessus. C'est les occidentaux qui sont pas contents, donc on retire les talibans parce qu'ils ont dit que. Ok, il y a peut-être une majorité ouais, mais... d'occidentaux qui veulent jouer à ce jeu-là, mais.
Il y a aussi des. Pure, à mon avis, il y a aussi effectivement des raisons politiques derrière avec la montée des terrorismes, les trucs et les machins.
Évidemment,
ils veulent
Counter-Strike,
pas...
c'est des contre-terroristes.
Mais bien sûr.
Des terroristes.
Bien sûr.
Le fait de les nommer effectivement, l'inscrire dans une réalité historique actuelle, certes, c'est ça qui peut peut-être choquer, mais à la fois, il ne faut pas non plus avoir peur de se dire que ça reste un jeu, que les gens qui y jouent peuvent aussi avoir du recul et pas se mettre bien dans sûr. La tête que soudainement ça va devenir des terroristes absolus qui vont se mettre des bandanas et jeter des pierres et tirer des gens.
Mais il y a une différence parce que par exemple, et ça rejoint du coup la deuxième question qui est celle de Inc sur la censure au global, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction dans le jeu vidéo. Je veux dire, les jeux vidéo circulent librement. Il y a des recommandations, mais on peut très difficilement aujourd'hui empêcher n'importe quel gamin de mettre la main sur un jeu qui est peut-être pas approprié pour lui ou avec lequel il va pas pouvoir adopter ce recul dont tu parles. Et c'est peut-être aussi pour ça que le jeu vidéo se retrouve plus facilement censuré parce qu'il est finalement moins contrôlé à ce niveau-là par rapport au cinéma ou à d'autres trucs. Quoi.
Et moi, ce qui me choque quand on parle de censure, c'est de voir finalement à quel point le média jeu vidéo est un média aujourd'hui qui est présent dans le monde entier, chez les gens, dans énormément de foyers.
Pas en Afghanistan.
Peut-être pas. Mais de voir à quel point il est finalement ciblé, ça veut dire qu'on sait pertinemment que le jeu vidéo a du mal à parler de sexe, de montrer des scènes d'amour, alors qu'on en voit moult au cinéma. On ne parle pas de pornographie ou quoi que ce soit, mais on le voit avec Heavy Rain, ce genre de choses. Ou par exemple, au Japon, il a été censuré parce qu'on voyait le personnage qui était...
Les fesses.
Les poils, c'est un truc qu'ils voulaient faire au départ et ils n'ont jamais pu le faire. Quoi.
Voilà,
les poils, c'est
on voit avec God of War la séquence de sexe, etc., qui finalement est totalement adolescente, puisqu'on ne voit rien, on entend juste des cris.
Et puis voilà, des coups de reins qui sont mis en son avec des bruits d'épée quoi. Ouais. C'est en plus une vision.
Mais ça vient petit à petit. Il y en a dans Assassin's Creed par exemple qui sont habilement faites. Oh là 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 là, vite Assassin's Creed.
Non mais
Brotherhood, il y a une scène.
Ce serait bien aussi de gagner en maturité et que les éditeurs aussi prennent des risques. Parce que moi franchement, ça me choque pas plus de me dire que je vais incarner soit les talibans, soit les américains dans un jeu de guerre. Plutôt que me dire que j'incarne un personnage, de quelque camp il soit, avec un fusil et que je vais faire des headshots et tuer les gens, quoi. Finalement,
mais en
c'est
plus,
plus grave.
Le truc, c'est que faut pas se leurrer, quoi. La majeure partie des joueurs qui vont jouer à Medal of Honor en réseau ou à n'importe quel autre jeu assimilé, ils s'en foutent de savoir quel est le nom de l'équipe, quoi. Ils sont là pour jouer à un jeu vidéo.
Oui, c'est
quoi.
Les gendarmes et les
gentils,
voleurs.
Bah voilà.
C'est exactement voilà. Ça.
Les cowboys et les indiens.
Exactement. Donc, c'est-à-dire que la
terroriste,
minorité...
je vais pas dire, mais bon, on sait un peu où ils se trouvent en vrai. Hein. Mais bon, bref.
Trace des informations. Bon allez, le débat en tout cas est clairement ouvert, c'est difficile de donner une réponse définitive là-dessus, forcément c'est très subjectif aussi. Vous dans le forum, n'hésitez pas à continuer à nous donner un petit peu votre avis, on sentira un petit peu comme ça émerger le sentiment des joueurs, en tout cas des joueurs de la communauté de Gameblog. Mais en tout cas, très clairement, le problème, le sujet de la censure nous concerne et on espère que ça va progresser dans le bon sens, Julo.
Il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même, c'est que le jeu vidéo souffre encore et toujours quand même de cette image de loisirs pour enfants.
Exactement.
Or, aujourd'hui on sait que le joueur moyen il a plus de 30 ans.
Il a 33 ans en France.
33 ans, le joueur moyen. Donc il faut, moi je pense surtout que ça un jour ça rentre dans la tronche de tout le monde et je pense qu'il n'y a pas de secret, hein, c'est comme le rock'n'roll et tout ça.
Ouais.
Il faut attendre qu'on grandisse et que nous-mêmes on devienne les grands
vieux.
Et voilà. Et que ça change en fait finalement par la force des choses. Voilà.
Et bah justement, tu vas voir que la question de Papy Soupape, j'adore ton
pseudo. Papy Soupape, on adore ton pseudo.
Exactement. Vraiment. Et bah finalement, c'est un petit peu la même chose. Sa question, la voici. Pourquoi le ton d'une émission consacrée aux jeux vidéo à la télé doit être aussi différent, pour ne pas dire franchement moins bien, que ce qu'on peut trouver dans la presse papier ou internet ? On peut prendre l'exemple de Turbo en France et de Top Gear en Angleterre, qui parviennent parfaitement à tenir la comparaison. Alors donc là, il s'agit d'émissions d'automobiles. Pourquoi a-t-on l'impression que quand vous parlez de jeux vidéo à la télé, vous vous adressez uniquement à des néophytes sur un ton qui est tout sauf sérieux ? Alors, j'imagine... Papy Soupape, que tu parles en l'occurrence, de l'émission Gameblog, qu'on peut trouver donc sur DirectStar, le mercredi, le samedi, le dimanche.
La pub.
À quelle heure, à quelle heure?
C'est à 16h10 le mercredi, à 23h45 toujours le mercredi, à 17h15 le samedi, et maintenant à 15h45 le dimanche. Une nouvelle diffusion a été rajoutée. Pourquoi? Tout simplement parce que ça marche bien. Alors, le cœur de ta question, oui, il y a une vraie différence entre le traitement jeux vidéo sur Gameblog DirectStar et Gameblog.fr. Pourtant, tu vas nous dire, c'est les mêmes personnes qui le font. Et bien, tout simplement, car quand tu fais une émission pour une chaîne, elle a son audience, elle a un cœur de cible, et surtout, elle va ratisser de manière large, grand public, comme on dit, c'était pas forcément un gros mot. Sur Gameblog, nous, on donne exactement ce qu'on veut faire, comme on veut le faire, la manière dont on veut le faire, et de manière précise.
Ouais, ce qui veut dire aussi que si nous-mêmes, on faisait, c'est ce qu'on faisait à l'époque finalement de PlayStation Magazine, mais c'était moins flagrant, si on était au sein d'une rédaction d'un magazine généraliste, je sais pas moi, un magazine masculin ou un autre truc, on ne traiterait pas le jeu vidéo de la même façon qu'on le traite sur Gameblog non plus. Alors que c'est pas forcément, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément une question de support, c'est une question de...
À qui on s'adresse. Ouais.
Voilà, et donc à la télé, les gens, c'est pas forcément les gamers, les gens qui, comme toi, Papy Soupape, ou comme plein de personnes qui nous écoutaient là et qui vont sur Gameblog, sont accros à la news, vont chercher tout le temps les dernières vidéos, les derniers trailers, etc. C'est des gens qui consomment le jeu vidéo de manière un petit peu plus large, et ça, on le voit par les chiffres que nous, on a. On voit que c'est un public beaucoup plus... moins intéressé, moins spécialiste du jeu vidéo. Bah pour les intéresser, justement, effectivement, on se doit de prendre les choses avec un tout petit peu plus de recul, un petit peu plus large. Néanmoins, c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Quand tu dis en franchement moins bien, ça c'est très subjectif. Nous, on veut pas du tout vous prendre, vous les gamers qui regardez DirectStar, pour des débiles. Les jeux qu'on aime pas sur Gameblog.fr sont toujours les jeux qu'on aime pas sur DirectStar.
Et on le dit, c'est pas le cas dans toutes les émissions où il y a du jeu vidéo.
Il y a vraiment des jeux qu'on massacre, hein. faut le dire. Et les jeux qu'on aime sur Gameblog.fr sont ceux qu'on aime sur DirectStar.
Après, il y a une problématique de temps aussi.
C'est que, exactement.
Voilà, sur la télé, ça va beaucoup plus vite.
Donc, on va à l'essentiel. On va prendre les 3-4 points forts ou moins forts d'un jeu là où, sur Gameblog.fr, on a largement le temps, en test vidéo, en test écrit, de pouvoir eh bien, justement venir sur tous ces détails. Mmh. Donc, effectivement, pour un gamer, tu as l'impression que ça va un peu vite, qu'en plus, tu n'apprends pas énormément de choses parce que tu as déjà vu les images, tu es probablement déjà au courant de tel jeu va sortir, etc. Mais il faut se dire que c'est peut-être comme un sujet que tu connais moins, je sais pas, le nautisme ou le golf, mais même, tu fonderais sur une émission là.
Toi, tu as dû lire des magazines d'auto mobile, non ?
Oui, bien sûr, ça m'est arrivé.
Donc, c'est certainement probablement vachement plus précis dans les canards de jeux vidéo d'automobiles spécialisés que dans des turbos et des compagnies.
Évidemment, ils s'adressent vraiment à des spécialistes. Turbo, c'est une émission très grand public.
Parce que, comme ils faisaient le parallèle avec Top Gear et Turbo.
Top Gear, par contre, c'est.
Oui, Top Gear, c'est un peu spécial.
Top Gear, c'est quand même bien spécialisé.
Mais alors, si je puis me permettre. Le jour où les moyens sur DirectStar
pourra balancer des bagnoles dans haut d'un immeuble,
c'est ça, avec un jet, un chasseur qui se fait la course contre toi, je t'avouerai qu'on fera des trucs encore plus gros et ambitieux. Mais il faut voir aussi combien de temps on a pour faire l'émission, quels sont les budgets de cette émission. Voilà, donc on fait franchement le mieux qu'on peut, et bien évidemment on est au courant qu'il y a des choses qu'on doit améliorer. On les améliore, on essaye en tout cas chaque semaine pour vous faire une belle émission pour vous les gamers où on n'a pas l'impression qu'on vous prend pour des débiles, et en revanche effectivement une émission aussi qui va s'ouvrir et intéresser des gens qui sont peut-être moins un public spécifique du jeu vidéo, mais qui par l'intermédiaire de cette émission vont peut-être avoir un regard nouveau et intéressé sur le jeu vidéo. Mmh. Voilà, c'est l'ambition et la mission de cette émission Gameblog sur DirectStar. On parlera pas des autres émissions, on sait pas exactement comment ils les font et pourquoi ils les font de telle ou telle manière, mais voilà, donc le ton il est peut-être un petit peu plus léger effectivement que sur Gameblog.fr, mais c'est aussi c'est ça.
Il y a le choix, voilà, tu peux aller regarder sur Gameblog DirectStar et puis aller sur le site après pour voir des trucs plus pointus.
C'est une fois de plus, simplement. Un plus. C'est pas en moins. Et puis, il faut savoir aussi qu'on ne décide pas de tout. Il y a des choses aussi qu'on nous impose. Section d'assaut, et compagnie. Oh voilà, hein, c'est... Il y a des discussions parfois. Voilà, j'espère qu'on a bien répondu en tout cas à ta question, Papy Soupape. Voilà, autre question, il s'agit de Shipster. Alors Shipster nous demande, au sujet des enseignes spécialisées en vente de jeux, est-ce qu'elles ne sont pas vouées à disparaître à long terme quand on regarde les boutiques plus généralistes type Fnac ou Saturn qui se permettent de ronger sur leurs marges pour proposer des jeux à 60€ au lieu de 70€ à leur sortie ?
C'est marrant parce que je crois que je parlais de ça avec d'autres collègues récemment quand on est allé voir Rockstar là. Je crois que tous les médias sont passés par là. C'est le problème de la grande distribution. Je veux dire, avant, il y avait beaucoup de disquaires, par exemple, qui vendaient, qui étaient même assez spécialisés sur des disquaires de jazz, de pop, de machin, etc. Un peu partout en France. Et puis la grande distribution est arrivée. On a trouvé les CD dans les supermarchés et tout ça. Et du coup, il y en a plein qu'on fermait. Et c'est quelque chose qui est inévitable. Néanmoins, j'ai la sensation que ça revient un petit peu, en tous les cas, du côté des disquaires. Il y en a encore qui vivent. Ces boutiques doivent bien vivre économiquement d'une manière ou d'une autre, puisqu'il y a bien des gens qui y vont, sinon ils auraient fermé, quoi.
Et ça existe encore. Beaucoup qu'on fermait.
Il y en a beaucoup qu'on fermait, mais ça n'a pas complètement disparu. Et je pense pas du coup que ça soit. Enfin, il n'y a pas de raison que en jeu vidéo aussi, même s'il y en a beaucoup qui restent de fermer, ça disparaisse complètement en tout cas.
Pour le coup, les disquaires, ils sont hyper spécialisés quand même.
Ouais, ouais.
C'est vraiment des trucs que tu trouveras jamais sur le net, ou des collecteurs, des vinyles, des machins.
Ouais, enfin, ou même je suis pas des experts, mais en gros, très c'est
que j'en ai déjà vu.
Mais effectivement, je suis persuadé, ça sera comme ça aussi un jour. Je suis persuadé qu'effectivement, on est passé par une phase où la grande distribution a tout liquidé, etc. Mais on vit aussi, je sais pas, dans une société où t'as l'impression que les gens ont un peu besoin d'un retour à des choses assez simples, et rentrer dans une boutique, parler aux vendeurs, se faire conseiller, et tout ça. Enfin, c'est effectivement des concepts qui ont l'air de revenir. Donc c'est peut-être pas. C'est quand même, ils vivent des jours difficiles, hein, toutes ces boutiques. Quand tu regardes, moi, alors on est ici à République, dans les locaux de Gameblog. Mmh. Juste à côté, il y a le boulevard Voltaire. J'étais fourré là-bas tout le temps quand j'étais môme, parce que, bah, comme nous tous, hein, on allait acheter nos jeux.
Fourré là-bas.
J'étais tout le temps fourré là-bas.
Oui, il était tout le temps. Ouais.
Moi, j'allais même dans les arrière-boutiques.
J'ai fourré là-bas.
Ah bon, bon, bref. On n'a pas dit qu'il fallait faire un podcast vulgaire. Qui pue. Et quand tu regardes maintenant le nombre de boutiques qui ont fermé, c'est impressionnant par rapport à l'époque. Mais voilà, sait-on jamais. Elles sont effectivement pas toutes mortes.
Mais là, on parle surtout des enseignes telles que Game, etc. Bon, ça reste quand même des spécialisés.
Oui, oui.
Mais c'est tellement énorme, il y en a tellement que. Je vois mal le Fnac ou des choses comme ça.
Mais on peut regarder
magasins de jeux, vraiment.
On peut regarder ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Il y a des chaînes généralistes comme Walmart qui sont titanesques,
Et c'est les plus gros du monde,
effectivement,
hein,
du jeu vidéo. Ça n'empêche pas les games là-bas ou les GameStop de trouver des moyens d'attirer les joueurs.
Ils ont beaucoup de promos avec des trucs particuliers sur des jeux.
Ils font des contenus en plus.
C'est ça qui se développe de plus en plus.
Exactement.
On voit des games ou Micromania avoir des exclusivités sur certaines grosses sorties,
sur certains collecteurs, etc.
Pour avoir un petit bonus en plus, etc. Qui leur permettent effectivement s'adresser à un public plus spécialisé et qui va être à même d'acheter ces goodies.
Mais tu sens qu'ils sont en train de regrouper toutes les idées qu'ils peuvent avoir, tellement ils flippent de.
Puis il y a une autre menace qui arrive sous la porte. Il y a l'autre menace de la distribution numérique qui leur colle aux fesses aussi. Hein.
Et parce qu'il faut quand même pas oublier qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a un contact privilégié dans ces boutiques-là, mais quand même, il y a un peu de braquage, moi je dis. Parce que quand tu vois les marges en France que se font les distributeurs, alors pas forcément les petites boutiques qui font peut-être les mêmes marges, mais qui ont besoin, elles, d'avoir cet argent, bah parce que le pas de porte coûte cher, parce que le stock, etc. Puis eux, ils n'ont pas des chaînes de boutiques avec 350 magasins qui vendent des hordes de trucs. Mais néanmoins, on est quand même l'un des pays où le jeu vidéo est le plus cher, bien plus qu'aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Allemagne. Enfin bon, les marges sont très conséquentes. Et même auprès des développeurs français, ils se plaignent.
Ah bah bien sûr qu'ils se prennent, surtout les développeurs qui touchent quoi, genre 8% sur un jeu, un truc ridicule, alors que c'est quand même eux qui ont créé la richesse à la base, avec l'éditeur qui après doit prendre dans les 20%, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc lui qui a assumé en général le risque financier,
le financement,
et le reste c'est de la distrib, de la marge, du grossiste, du machin, du bidule, des trucs important, enfin je veux dire, tu pourrais pas vendre les jeux sans ça, mais c'est en proportion, c'est bizarre quoi.
C'est le souci des agriculteurs, hein, c'est exactement ça. Hein.
Exactement.
Ils ont l'impression de se faire avoir dans tous les sens parce que les marges des grands distributeurs sont colossales quoi.
Et donc au final, le consommateur,
bien
qui
sûr,
pourrait payer son jeu ou sa carotte vachement moins cher si justement l'étape finale, finalement, celle où il y a le moins de plus-value, se prenait une marge un peu moins.
Mais c'est comme ça qu'Amazon arrive aussi à pratiquer des prix vachement plus compétitifs que la distribution.
Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs, je suis désolé, je reviens dessus, mais qui maintenant ouvrent carrément des espèces de coopératives où ils vendent directement aux consommateurs.
Localement, ouais.
Exactement. Donc et là, effectivement, c'est la meilleure solution puisqu'il n'y a aucune marge.
Tiger.
Oui, non, moi je me disais juste que je pense que ces chaînes comme Game ou Micromania sont clairement en danger. Parce que quand tu vois par exemple à la Fnac comment le rayon jeux vidéo en quelques années mais s'est développé à une vitesse phénoménale, maintenant ils proposent en plus l'échange comme dans ces boutiques spécialisées.
Ouais.
En plus de ça, avec le dématérialisé qui va être au fil des années, mais.
Il va prendre une part plus importante.
Généralisé. Voilà, ça va être naturel d'acheter des jeux dématérialisés, quoi. Je pensais, là, c'est pas vraiment le même métier, mais vous vous rappelez de la chaîne Vidéo Futur, qui louait des vidéos, qui était. On allait tous chez Vidéo Futur, Futur à côté de chez nous. En tout cas, c'était une grande chaîne, quoi.
Ouais.
Et en quelques années, ça disparaît.
Il y en a toujours un gros.
Ça existe encore.
Ça existe encore, mais.
Si, parce que moi j'y vais, j'y vais de temps en temps.
Quelques-uns.
T'es un vieux de la vieille.
Ouais.
Alors Julot parle d'un retour, d'un fat comeback.
Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi j'en ai vu rouvrir en fait. Et j'ai l'impression, parce que moi ça me manque personnellement d'aller louer. Tout n'est pas disponible. Ça fait des mois que j'essaye de regarder le film qui s'appelle non, c'est pas Insomnia, c'est l'autre. Memento. Ah, il est disponible nulle part hein, sur aucun truc de VOD, etc. Même les gros trucs sur le net et tout. Oui. Et voilà, il y a genre un petit vidéoclub en bas de chez moi. Il y a encore voilà, cette problématique de trouver le truc tout de suite, le truc un peu impulsif quand tu passes devant une boutique, parler avec quelqu'un.
Mais
avec
ça sera des boutiques marginales, quoi. Comme t'as ton vendeur de comics qui a voilà, que les comics exclusifs.
Vendeurs de comics, aussi,
ça sera très marginal, quoi.
Ouais. Il y a des gens qui achètent des comics chez Auchan ? Non.
Ouais, ou alors ça sera que des musées.
Mais non, mais tu les achètes sur le net. Hein.
Que des musées comme Akihabara, où j'ai jamais été d'ailleurs. Mais, bon,
mais
comme
Akihabara,
des vidéos, tout ça.
Ah non, non.
Non, mais c'est que des musées là-bas. Il n'y a que des vieilleries, franchement.
Ouais, non, 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 pas du tout.
À Akihabara, il y a plein de.
Non, mais je veux dire, il y a forcément des vraies boutiques, entre guillemets, mais il y a quand même beaucoup.
Akihabara, c'est le quartier électronique. Donc t'as le jeu vidéo, t'as les boutiques rétro, mais t'as aussi les boutiques de jeux récents, etc. T'as les boutiques de machines à laver, d'ordinateurs, de machin et tout. Enfin, il y a tout. Mais Akihabara aussi est un quartier qui est en pleine mutation au Japon aussi. Avec de moins en moins de boutiques, regroupées dans maintenant les plus grandes, voilà. Ça ferme, c'est beaucoup moins en fait spécialisé qu'il y a des années, quoi. Et surtout depuis internet, etc. Ils souffrent d'internet parce qu'on parle de la Fnac elle est très en danger aussi par rapport au commerce sur le net, hein. Bon, ils en font aujourd'hui, mais alors, Amazon, etc., c'est des grands méchants loups pour eux. Et donc à Akihabara, c'est un quartier qui devient de moins en moins spécialisé. En fait.
Mais de toute façon, c'est l'expansion.
Et c'est pas les bons prix.
Ça
ne
peut
Akihabara,
pas être un loisir d'initié qui cherche à devenir un loisir de masse et en même temps garder cet aspect fait pour les spécialisés. Enfin, je veux dire, ça va en parallèle avec l'évolution du média lui-même. Quoi.
Ouais, non, ouais, mais en même temps, quand tu penses aux livres, les livres, ça va de devenir ça aussi. Hein. Tu vas pouvoir les lire que sur iPad, machin. Tu les achèterais plus en vrai format, quoi. Ça va être pareil, ça va être du dématérialisé. Hein.
Bah, ça fera du bien aux arbres. Non, mais.
Ok, je me casse.
C'est un vaste débat, effectivement, mais c'est vrai que c'est pas, en tout cas, une tendance très positive en ce moment pour les boutiques spécialisées, finalement, un peu quelle qu'elle soit. La spécialisation tend un peu à disparaître ou à se retrouver sur Internet, sur des sites spécialisés de vente qui forcément coûtent moins cher, vendent leurs trucs un peu moins cher et du coup sont aussi disponibles.
Enfin, ça fera du bien aux arbres. Moi, je veux continuer à avoir des vrais bouquins, hein, juste là-dessus. Juste le tout numérique pour les livres, pour moi, c'est hors de question.
Livres, j'ai un peu plus de
jeux
vidéo, ça me dérange.
C'est pareil. Hein,
pour le jeu vidéo, ça me dérange.
Il n'y a rien de mieux qu'un album de BD dans la main ou un bon roman en main. Non, non. Voilà.
À suivre. Voilà. C'est aussi les nouvelles générations qui nous diront un peu comment ça va se passer parce que c'est leur choix.
Oui,
ils vont forger.
Ils vivront la fin du monde.
Et bien, non manière de consommer. Hein,
ouais. Et puis, ils vont refaire la langue française d'abord aussi. Ouais,
ça va être bien.
Oui. C'est un vrai problème.
Je crois qu'on va pas parler la même.
TMTC.
Allez, on va continuer justement un petit peu dans cette même mouvance, hein, avec la question d'Artichaut. Artichaut comme Show Most Common, vous êtes super au niveau des pseudos.
D'ailleurs, on vous choisit par rapport à ça, on a choisi que des bons pseudos.
Alors lui, il nous demande: que pensez-vous de ce phénomène qui vise à dénigrer et discriminer les joueurs Wii par les joueurs s'autoproclamant core gamers que l'on peut constater de plus en plus sur les forums de jeux vidéo? En tant que joueur, que pensez-vous de la Wii et a-t-elle sa place dans votre salon?
C'est mon moche, cher, ce n'est pas un phénomène récent. C'est un phénomène qui est vieux comme le monde. À l'époque, c'était pas parce que t'avais une console qui était gamer et l'autre casual, c'est que c'était une console qui était Sega, l'autre qui était Nintendo.
Non, qui était Amiga, Atari. Déjà,
Atari, bien sûr, entre Amiga et Atari, ouais, voilà. Carrément. C'est juste, c'est éternel, je crois.
Oui, mais c'est vrai que c'est quand même très marqué, hein, sur la Wii, que les joueurs,
le truc, c'est que
refusent et disent c'est une console de casual, alors que les consoles HD sont les consoles de gamers.
Ouais, mais alors si on prend trop d'attention aux gens qui disent des conneries.
Mais c'est surtout que les forums reflètent pas les joueurs, quoi. Enfin, c'est pas vrai. Ceux qui s'expriment dans les forums de jeux vidéo, c'est une classe de joueurs parmi tant d'autres, mais ils représentent pas véritablement le paysage des joueurs d'aujourd'hui.
Comme
c'est
le disait Monsieur Iwata, un hardware, c'est quelque chose qu'on achète à contre-cœur pour jouer à des jeux. Et ce sera mon message.
On l'a toujours dit, de toute façon, les jeux d'abord, le reste on s'en fout.
Mais oui, la Wii est stigmatisée aussi parce qu'elle est vraiment emblématique de l'essor du jeu vidéo au plus vieux.
Mais oui, mais nous on n'est pas contre l'essor du jeu vidéo.
Ah, mais moi absolument pas.
Et
j'adore la Wii.
Et effectivement, quand on est gamer, mais alors c'est un peu horrible, mais core gamer dans l'acceptation justement.
L'acception, ouais. Non,
non, l'acceptation.
Excuse-moi.
L'acception.
Peu importe.
Bon, enfin, quand on veut effectivement des jeux, genre des shoots, des beat'em all, etc., les jeux qui ont forgé l'histoire du jeu vidéo par le passé, effectivement, sur la Wii, quand on voit les pubs avec les jurys de la Nouvelle Star, avec les stars du moment, etc., qui s'amusent, etc., bon, bah, pour le grand public, c'est super, parce que justement, bah oui, comme le dit Traz, ça donne envie, le grand public comprend et se dit, ah, ça a l'air sympa, grâce à ses ambassadeurs, beaucoup plus grand public, mais effectivement, néanmoins, sur Wii, il y a des grands jeux gamers.
Oui, tout à fait.
Il y a des Muramasa,
No More Heroes.
No More Heroes, il y a les Mario qui sont quand même très bons.
Zelda, t'as dit déjà.
Zelda, il y a plein de titres qui nous ont vraiment fait triper. Et moi, à la question pour conclure sur le a-t-elle sa place dans votre salon, je peux dire qu'elle a vraiment sa place dans mon salon, je crois dans le salon de Julo, de Raon, de Trace, de Taïa.
Moi, je la boute un peu moins parce que je joue pas forcément beaucoup en multi, mais on en parlait la semaine dernière.
Non, mais le truc, c'est qu'il y a un jeu, non, mais faut être clair, il y a quand même un jeu tous les 3 mois qui est fort. Voilà. En 3 mois, tu prends un peu de poussière et tout. C'est vrai. Peut-être plus que sur Xbox ou PS3.
Mais on se plaint de jamais avoir le temps de jouer à nos jeux.
Mais oui, Et
c'est des jeux qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mario, on l'aura que sur la Wii, les Zelda que sur la Wii. Moi, je suis désolé, mais à Wii Party, j'ai pris un pied monstrueux et j'y ai joué des heures et des heures.
Bah, Wii Sport Resort aussi,
c'était génial.
Non, mais faut savoir, je pense, être un peu ouvert d'esprit. Faut pas rester dans notre cave de gamer, d'initié, s'ouvrir aussi un peu. Moi, mon grand kiff aussi avec la Wii, c'est de pouvoir jouer aux jeux vidéo avec des gens qui ne s'intéressent pas du tout au médium.
J'ai enfin un grand plaisir avec mes parents.
Ouais, ou avec des potes qui s'intéressent pas aux jeux vidéo, tout simplement.
Il y a un truc aussi tout bête, mais sur la Wii, t'as la Virtual Console. Alors, je sais que c'est un peu en marge du reste, mais pour les vieux gamers qui aiment vraiment ça, il y a une marée de vieux jeux à retrouver uniquement sur Wii. Si t'as pas conservé tes machines ou que t'as pas d'autres voies d'accès plus ou moins légales pour jouer à ces vieux jeux.
Castlevania, Rondo of Blood, j'ai redécouvert.
Après,
sur PSP, il était remis.
T'aurais dû prendre Castlevania 4.
Je sais, c'est un grand débat.
Après, soyons francs, quand on est dans une discussion entre gamers, après, il faut voir quel est le terme, la signification qu'on met à gamer, mais enfin, entre joueurs un peu plus au fait de l'actualité, de l'histoire du jeu vidéo, etc. Effectivement, on peut pas lui conseiller, prends qu'une Wii, tu seras satisfait.
C'est sûr,
pan entier du jeu vidéo actuel qui saute. Du coup, la Wii, mais à la fois, elle est beaucoup moins chère. C'est une console, entre guillemets, d'appoint, pas dans le terme péjoratif, mais la console qu'on va sortir, où il y aura d'autres expériences, voilà.
Enfin, ça reste du jeu, quoi.
Mais ça reste du bon jeu. Quand il est bien fait, il est d'excellente qualité sur Wii. Alors, c'est pas en HD, c'est effectivement généralement assez moche. Et vous savez qu'à Gameblog, on s'en plaint aussi parfois, parce que c'est décevant et que, bon, on aimerait que ce soit plus beau. Mais ça n'empêche que quand les jeux sont de qualité, ils sont exceptionnels.
Comme NBA Jam, c'est moche, mais on rigole bien, surtout avec Traz. Ouais.
Ah, bah oui, mais comme on disait la dernière fois, tout le monde n'a pas un Traz à la maison pour s'amuser quand tu joues à n'importe quoi. Mais bon.
Mais toi, c'est amusant même pour ceux qui jouent pas, ceux qui sont autour.
Ah, tu sais.
Merci Traz, de nous faire rire.
Allez, nouvelle question, la question de Titio. C'est une question d'actualité brûlante. Et là, justement, je crois qu'on va pouvoir laisser le micro à Traz parce que là, ça va te concerner directement.
Vas-y, je t'écoute.
Est-ce que Gran Turismo 5, avec un nouveau report, ne risque pas définitivement de lasser les joueurs? Sony est-il capable de rater les fêtes de fin d'année? Et connaissez-vous les réelles raisons de ce report?
Il y a trois questions en une là.
C'est ça.
Bah, déjà, on peut dire première, que non, ils rateront pas Noël.
Oui, non, d'ailleurs,
on est plus sûr de rien.
Non, a priori, ils devraient pas rater Noël puisque. D'après nos informations, le jeu sortirait fin novembre.
Le 26 novembre, c'est ça.
Donc pas de panique. Est-ce que ça va lasser les joueurs un nouveau report? Non, parce qu'un report de 3 semaines, c'est pas la mort.
D'ailleurs,
ça fait 5 ans qu'on attend, donc un petit peu plus, c'est pas très très grave. Puis le jeu, il sera de toute façon, à mon avis, extraordinaire, quoi qu'il arrive. Et les vraies raisons, apparemment, c'est parce que Polyphony, visiblement, n'avait pas pensé au problème de jailbreak de la PS3 là, qu'il y a eu récemment.
Avec les USB, là.
Voilà, exactement. Donc vu que le dernier firmware visiblement ne fonctionnait pas avec GT5, pour pallier à ce problème, apparemment ils ont dû reculer le truc pour faire des modifs, une nouvelle mise à jour.
La raison officielle qui est donnée par Sony, c'est qu'il veut que le jeu soit vraiment parfait.
Mais c'est pas possible qu'en 3 semaines on change tout quoi.
Mais pour les constructeurs, un jeu parfait est un jeu que tu ne peux pas pirater.
Certes.
Voilà.
Donc quelque part, ce n'est pas un mensonge.
Et le problème justement, c'est qu'effectivement, ce qu'ils viennent de découvrir sur le jailbreak, la mise à jour du firmware, etc. Ils le peuvent le régler très rapidement.
Oui,
ça prend apparemment 3-4-5 jours. Le problème, c'est qu'en période de fin d'année, il n'y a pas 10 000 usines de bourrées, contrairement aux usines de DVD.
Il n'y a que Sony qui les fait.
Et du coup, quand vous décalez de quelques jours,
Ça attend de ce tour après.
Il faut prendre un nouveau ticket.
C'est comme dans la presse. Il faut attendre. Si tu prends un peu de retard au moment d'envoyer le fichier à mettre le master, voilà.
Il y a un engorgement.
Et après, il y a d'autres qui sont passés devant toi. Il faut faire la queue.
C'est effectivement, comme le disait Julien, ça tombe en pleine période où ça turbine à fond.
Oui, parce que GT5, en plus, ils vont pas le sortir, ils vont pas l'imprimer à 5-6 exemplaires.
Non, ça va être une grosse mise en place.
Pour certaines versions, il y a 3 Blu-ray à graver. Donc autant vous dire que
c'est quelques millions
pas, c'est ça. Donc voilà, petit report, mais effectivement, c'est vrai qu'on l'attend depuis tellement longtemps que c'est presque une blague.
Ouais, mais ce qui m'a fait ce qui m'a fait marrer, je sais pas si tu te souviens, donc quand on était au Tokyo Game Show, vous avez vu, on a fait une interview de Kazunori Yamauchi et elle a été très courte et pour couper court, le producteur est, le producteur est, donc on était avec Kazunori, il y avait le traducteur, etc. Puis il y a le producteur qui est arrivé, qui
américain,
fait, américain, ouais, qui s'est penché vers nous, qui fait dernière question, c'était la troisième, je crois. dernière question parce que Monsieur Kazunori doit finir le jeu et là il faut vraiment voilà qu'il aille bosser. Et on s'est dit que c'était de façon polie de nous dire vas-y, lâche-le, il est fatigué. Voilà. et donc ça me fait marrer aujourd'hui de voir que le jeu est repoussé. Il est vraiment parti finir le jeu.
Avec ses
peut-être
doigts.
Qu'à cause de nos trois questions, on lui a fait louper un truc.
Julo, tu vas te faire lyncher.
Désolé
le
les gars.
On est super
on pensait pas faire mal.
Allez, nouvelle question, celle de Moradinho qui nous demande, pensez-vous qu'avec la 3DS, Nintendo se trompe?
Oui,
prix élevé, pas trop d'originalité. Pensez-vous que l'on s'éloigne de l'héritage de Gunpei Yokoi?
Génie mental, je le rappelle.
Gunpei Yokoi, on vous rappelle, avec Florent Gorge, on avait eu un podcast en ce début de saison
que vous devez écouter,
qui est fantastique. Et effectivement, donc, ce que veut dire Moradinho, c'est que l'héritage de Gunpei Yokoi, c'est utiliser des vieilles technologies, mais intelligemment, pour que, un, ça ne coûte pas trop cher à l'utilisateur, puisque c'est des technologies qu'on retrouve un peu partout.
Pensée latérale.
Et là, les, voilà, pensée latérale des technologies désuètes. Voilà. Et effectivement, la Nintendo 3DS, bah, c'est la technologie un peu plus évoluée avec la 3D Relief, en tout cas, ils innovent. Sauf qu'en fait, franchement, on se rend compte, quand on ouvre un petit peu la machine, les puces, etc., que c'est de la technologie un peu passée aussi.
Ah bah, à part l'écran, oui.
À part l'écran, oui.
Mais l'écran, quand même, c'est tout récent. Hein. On avait fait une news sur Gameblog il n'y a pas ça,
oui,
si longtemps. Bah, voilà.
Les premiers
même
trucs
pas.
Avec les premières ouais, expositions enfin, de ce genre d'écran.
Les productions c'était... en masse, etc. C'est, oui. Les, c'est quoi les, c'est des écrans Sharp
ou... Oui, oui.
C'est ça,
oui.
Sharp.
A priori.
C'est tout récent. C'est tout récent.
Alors, est-ce que Nintendo se trompe?
Alors,
la 3DS,
moi je pense pas, mais bon.
Non, alors moi ça me fait penser à un truc entre voilà, est-ce que Nintendo se trompe avec la 3DS et l'héritage Gunpei Yokoi. Ça me fait penser à l'autonomie de la 3DS.
Oui.
Et a priori, si elle est vendue avec un socle de recharge, c'est parce que justement cet écran, qui est une technologie récente et non pas une technologie désuète, pompe beaucoup d'énergie.
Elle aura moins d'autonomie.
Et qu'elle aura moins d'autonomie et que donc Nintendo souhaite que dès qu'ils le peuvent, les utilisateurs la rechargent et donc avoir un dock comme ça sur sa table de nuit, sur la table du salon, etc. pour la remettre tout le temps parce que, un peu à la manière de l'iPhone, hein, il va y avoir une batterie qui va s'user assez rapidement a priori. Et ça, c'est vrai que c'est pas très Nintendo. En même temps, est-ce qu'ils se trompent commercialement parlant? Non. Je pense pas du tout. Quel que soit le prix, enfin, si c'est en tout cas dans, les, dans l'ordre de grandeur qu'ils ont donné, c'est-à-dire 25 000 yens, je pense qu'ils vont en vendre des millions très très vite.
Il y a beaucoup de personnes quand même qui se plaignent de
et partout dans le monde.
Faut,
c'est vrai qu'il est un petit peu.
Mais alors je comprends pas moi, personnellement.
Bah, par rapport à la plupart des prix d'entrée de ce type de.
Mais la DS,
elle
est sortie à quel prix?
Moins cher.
Beaucoup moins cher?
Non, pas tant que ça,
je
mais juste assez. Tu sais, c'est un prix palier qui est.
Non, mais en dessous des 200 euros.
L'angoisse aussi, c'est surtout avec Nintendo, c'est courant, c'est d'acheter donc cette 3DS chère. Et un an après, d'avoir une 3DS Lite qui aura résolu ses problèmes de batterie et tout
Light,
ça.
Light, il voulait dire, oui.
Ouais. on dit pas la
non,
DS.
Non,
on dit Light.
Et Elite pour la Xbox.
Ah, bon, d'accord.
Mais
bah, vous m'avez corrigé. Et on dit Castlevania et pas Castlevania.
Ah, là, tu es.
Voilà, bien joué.
Mais de quoi je. Oui, bah, moi, par exemple, j'hésite à me la prendre à la sortie, même si j'ai très envie d'y jouer. Parce que je me sentirais floué si un an après il y a un modèle plus petit, plus mignon,
et
avec
puis
une
parce
meilleure
que,
autonomie.
Parce que tu l'as déjà vu fait plein de fois ce coup-là. Donc,
bah ouais.
Ça. Mais c'est pas une erreur en soi. Et de toute façon, ça reste une DS. Alors c'est une nouvelle DS plus puissante avec un écran 3D. Mais dans la tête de la plupart des gens qui ont des DS, c'est une évolution supplémentaire de la DS, quoi. Mmh. Donc d'ailleurs, elle est très rétro-compatible.
Et puis dire pas trop d'originalité quand même, c'est la première fois où un appareil de ce style grand public va avoir de la 3D relief. On peut vous l'assurer pour l'avoir vu, y avoir joué, l'effet est saisissant, il n'y a pas besoin de lunettes, etc. Après effectivement, bon, c'est pas de la 3D incroyable, etc. Mais enfin, c'est quand même sensiblement bien plus beau que
la 3D quoi, pardon.
Incroyable.
Ah d'accord.
Voilà. mais voilà, on sait que Nintendo n'a pas une politique et ne l'a jamais eu de prouesse technologique folle. C'est les jeux une fois de plus qui font la différence.
Oui, je pense que ce qu'ils voulaient dire, c'est que c'était peut-être moins marquant que quand ils ont sorti une DS avec un micro, un écran tactile, un machin et plein de petits trucs comme ça et le double écran.
Il faut pas minimiser l'ingéniosité des studios de Nintendo. Je pense aussi avec cette 3D, ils vont nous sortir des titres qui niveau du gameplay font juste.
Et la réalité augmentée. On en parle
oui,
très peu,
plus,
mais c'est quand même
tout à fait. Ouais.
Elle peut faire de la réalité augmentée avec ses capteurs, ses petites caméras. Et ça, franchement, ça peut être génial. génial parce qu'aujourd'hui il y a quelques titres qui le font sur iPhone mais finalement on le voit aussi avec iPad. Si vous l'avez dans la main, si on imagine vous vous baladez dans la rue et que vous combattez des ennemis virtuels, tout ça peut être génial. Julo. Attention, il va nous sortir de chez nous.
Non, il pose pour la photo.
Très bien, parce qu'on fait plein de trucs en même temps, évidemment. Ok, bah, je crois que t'as un propos.
T'as
clair
un test, vite. Non. Mais je vous préviens, pour l'autonomie, vous allez voir.
Ouais, mais j'ai un peu peur aussi. Ouais.
Mais on verra bien. Hein.
Et puis bon, les premiers jeux en plus annoncés, ils claquent quand même.
Oui. Non, et puis pour revenir juste sur l'autonomie, la DS, elle tenait quand même un bon bout de temps. Ouais. Je sais pas si vous vous rappelez, mais...
Ouais. Ah oui, oui.
Mais après, c'était une technologie désuète. Si c'est 15 heures, c'est peut-être autre chose déjà.
On a beaucoup tapé sur la PSP à cause de son autonomie. Effectivement, si c'est dans les mêmes ordres de grandeur, on tapera forcément sur sur la 3DS.
Tout à fait.
Et c'est très perturbant, vos histoires de photos, là. voilà. Je sais plus du tout ce que je voulais dire, du coup.
Mais tu voulais dire question suivante.
On avait fait le tour de la question, en gros, clairement. On attend la 3DS.
On attend la 3DS. On pense pas qu'elle va se planter, loin de là. Et...
Mais aura-t-elle le même succès que la DS? Peut-être pas.
Point d'interrogation.
Moi, je suis pas si sûr.
Mais ils vont la compter dans la gamme DS, non?
Ah bah non.
Je sais pas.
Oh, c'est la 3DS.
Bah la DSi, elle est dans la gamme DS?
Oui, bien sûr.
On nous a rabâché. C'est pas la même console, c'est un nouveau lancement, etc.
Et tu te fais avoir.
Enfin bon. Allez, nouvelle question, celle de Woosfei. Que pensez-vous du line-up exclusif gamer de la Xbox 360 en 2011? Seulement Gears 3 comme seul gros jeu exclusif gamer de prévu pour 2011.
Alors là...
Même chose pour le catalogue exclusif de la PS3 en 2011.
Là j'ai envie de faire Kinect, PS Move. Donc il y a pas que du gamer quoi. C'est pas du tout.
C'était génial. Cette séquence était folle.
Je crois qu'il y a des fous ici. Les gens sont morts ici.
Oui, mais quand il dit gamer, justement, il parle
qu'il y en a pas beaucoup
sauf Kinect et PS Move. Oui.
D'accord, ok.
Et en gros, ça doit être un gamer. C'est quoi les jeux pour moi sur ces plateformes? Et effectivement, moi je m'étais fait
un peu
la même réflexion.
En fait, c'est ça le truc.
C'est sur Xbox 360, franchement, l'année prochaine, en visibilité, on a Gears 3.
Un titre exclu. Et encore, il a été repoussé à l'automne. Hein,
Moi, j'ai sur PS3, il y en a quand même un peu plus.
J'ai envie de dire Kinect.
Arrêtez, vous êtes fous, vous ne faites pas avancer le débat, messieurs. Non, sur PS3, on va avoir Infamous. On va avoir Resistance 3.
Oui.
On va avoir Last Guardian.
Ouais, 4, un nouveau Ratchet encore.
Un nouveau Ratchet. Alors, est-ce que c'est des grands jeux incroyables et fantastiques pour les gamers? Je ne sais pas. Mais enfin, Last Guardian, c'est quand même. Et Resistance 3 a l'air quand même assez sérieux. Infamous 2, toi, t'avais bien aimé le premier.
Ah oui, puis le 2 a l'air détachement
voilà.
Bien. Ouais.
Il y a
plus de
gamers.
Choses chez Sony que chez Microsoft en visibilité pure.
Oui, mais ça se trouve, ils vont sortir des trucs de leur chapeau.
À la fois, ils sont partis plus tard, j'ai envie de dire aussi Sony. Hein, donc ils rattrapent maintenant, mais c'est vrai que par le passé, je trouve qu'il y avait vachement plus de belles exclusivités gamers sur Xbox. Mais bon, c'est des périodes.
Mais est-ce que tu crois que dans sa question, il voulait savoir comment ça se fait que ça soit exclusif gamer ou quoi?
Ah non, je pense vraiment, genre, peut-être qu'il se pose la question comme Tiger.
Il a l'air d'être allergique.
Il achète quoi comme console, la Xbox 360 ou la PS3? Et il est gamer et il se dit, bon, j'investis sur quoi?
La PSP.
Si c'est le cas, nous, la réponse qu'on donne, elle est très compliquée. L'idéal serait prendre les deux.
Soyez riche.
C'est ça.
Soyez riche et bien portant.
Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que quelle console que vous prenez à Noël, vous avez un catalogue qui vous attend de jeux auxquels vous n'avez pas joué, du coup, qui est colossal en exclusivité, que ce soit sur PS3 ou sur Xbox 360. Après, si la question est juste sur 2011 et je parle que des jeux exclusifs, il y a un petit penchant positif quand même pour la PS3.
Bah, ne serait-ce qu'en termes de variété du catalogue dont on a la visibilité pour l'instant, c'est sûr. Mais même mine de rien, il y a quand même plein de jeux multiplateformes.
Mais c'est ça, voilà. Le multi quand même fait que les deux machines, quoi qu'il advienne.
Puis c'est pas des petits jeux non plus, c'est pas parce que c'est pas des exclus que c'est pas des choses à surveiller, quoi.
Et puis je sais pas pourquoi, mais je pense qu'en 2011, il y aura un Call of Duty, un Assassin's Creed.
Ouais,
mais
Assassin's Creed, je suis pas sûr.
Bah, oui, il parle pas uniquement d'exclus.
Si.
Ah,
bon.
Mais je l'écoutais
pas. Line-up exclusif.
Oh non, exclusive gamer.
Mais non, oui, non, mais c'est
mais
ce que
si,
ça veut dire.
Il parlait des jeux gamer sur Xbox et aussi sur PS3. Bon, bah, on n'a pas bien compris.
Vous, Woosfei,
on peut la comprendre de deux façons, effectivement, oui, c'est possible. Exclusive gamer ou exclusive 360 gamer. Bon.
Bah, Woosfei, toi-même tu sais, et je t'ai compris.
TMT.
Mets-le dans le forum, tu leur expliqueras.
Tu diras, c'était Julo une fois de plus.
Mais non, Julo qui est dans le ZEF,
évident,
le vent.
C'est les questions sur l'exclusivité. allez, on va passer à une autre question, celle de Keiji et de Kokoro.
Inafune.
On vous a regroupé parce que finalement c'est un peu le même style de question. Avez-vous toujours la même opinion sur le dématérialisé aujourd'hui qu'à ses débuts? Avant, vous étiez réticent à son sujet, et moi aussi, lorsqu'on me demandait si cela me dérangeait de ne pas avoir de boîte pour un jeu. Je répondais fermement non. Et pourtant, aujourd'hui, cela ne me pose plus vraiment de problème, excepté le prix, qui est parfois le même que la version boîte.
Oui.
Est-ce également votre cas ? Et donc, la question de Kokoro. Pensez-vous qu'un système comme OnLive puisse vraiment marcher ? Ces derniers temps, on dirait que tout le monde y croit, et que moi, alors que moi, ça m'inquiète. J'adore vraiment mes consoles et je me vois mal avec un boîtier sous ma télé et des jeux dématérialisés à louer. En gros, quelle échéance pour le dématérialiser ? Est-ce qu'on va vraiment y basculer ? Est-ce que c'est si flippant que ça ? Ou est-ce que c'est juste une tendance ? Et ce sera en parallèle avec les jeux en boîte ?
Alors, je ne sais pas si déjà Keiji a réécouté récemment le podcast sur la dématérialisation sur lequel on avait fait un beau petit tour de la question. Moi, perso, je n'ai pas changé d'avis sur la question depuis. Je ne sais pas si vous avez changé ou pas, mais... Non,
de toute façon, on y viendra. Enfin, on y est, on est dedans... Moi, ce qui me fait peur avec le dématérialisé, c'est que ça coûte vachement plus cher qu'est-ce qu'on croit, quoi. Parce que t'es tellement tenté de prendre tous les jeux, alors qu'en boîte, bon, tu choisis, tu regardes bien ce qu'il y a dedans, etc. Enfin, bon, c'est mon point de vue, hein. Donc moi, le dématérialisé, oui, c'est super pratique. Mais j'ai toujours été un fan des jeux dans leur version boîte. Pour moi, après, oui, de temps en temps, c'est quand même bien pratique et plutôt intéressant, quoi. Surtout quand il y a des promos comme Festim, notamment.
Mais je crois que là, globalement, les gens ont peut-être de moins en moins peur. Parce qu'il soulève quand même, Keiji, le fait que beaucoup de gens étaient de base réticents et voulaient surtout pas en entendre parler. Moi, j'ai l'impression quand même que plus ça va et plus on se détend un petit peu en se disant, bon, déjà, on va pas me forcer à y passer tout de suite. Voilà. Et puis finalement, ça a quand même des avantages.
Ah, bien sûr. Bah, moi, j'ai changé quand même de ce point de vue-là. Effectivement, avant, j'étais ultra réticent. Je trouvais ça ridicule et tout ça parce que je suis un vrai collectionneur, etc. Mais c'est vrai que j'ai acheté pas mal de jeux en téléchargement, notamment sur Steam, les Monkey Island, etc. Ça me pose aucun problème, hein, franchement.
Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'avec les téléphones Android, les iPhones, où on ne va pas acheter une application en boîte chez un petit commerçant, et on a l'habitude comme ça, en un clic, d'acheter plein de jeux, des applications, etc., avec sa carte bleue qui a été prise une fois et qui va servir 10 000 fois, bah, on s'habitue, bon an, mal an, à ce style de consommation, et on se rend compte que c'est quand même bien pratique, parce que bah, on peut le faire à tout moment,
en un clic,
rapidement. Il est 23h30, il pleut, j'ai envie de me faire un jeu, qu'est-ce qu'il y a de nouveauté ? Ah putain, il y a ça qui est sorti, cool, tac, c'est quoi, 25€, tac, je le prends. Et ben voilà, moi je trouve que ça fait quand même beaucoup de chemin dans les têtes.
Il y a un autre truc aussi que soulevait un certain petit gars qui s'appelle Kazirai, le patron de Sony Computer Entertainment. C'est-à-dire que les jeux, bon, les jeux Xbox 360 moins que les jeux PS3, mais ça représente quand même une masse de données. Pour les PS3, ça va jusqu'à 30-40 gigas.
Oui, c'est gros.
Tout le monde n'a pas forcément encore ce qu'il faut pour télécharger des jeux de cette taille-là, c'est donc on va pas se passer des boîtes demain.
Surtout sur PS3, ça charge pas bien vite. Hein.
C'est vrai.
Ah, on est d'accord. Moi, ça va pas planter. Moi, je suis en Wi-Fi en même temps.
C'est lent, mais moi aussi, c'est long.
On est d'accord. Ah, bah, Julien, il va
alors
pas
que
comprendre.
Je suis en Wi-Fi sur Xbox et c'est. Rapide, si,
on est d'accord. C'est beaucoup plus rapide sur Xbox. Tu vois,
mais c'est ce qu'on disait dans le dernier podcast avec CAF, où ils vont nous faire du premium payant pour que les lignes aillent plus vite sur
exact.
PS3. Peut-être, on ne sait pas. Et donc, il y avait Kokoro qui nous posait une question sur OnLive aussi.
Bah, je pense que c'est un peu tôt encore, mais.
On resitue un petit peu aussi.
Oui, OnLive, c'est de la VOD adaptée au jeu, c'est du gaming on demand. Donc, tu loues des jeux.
Du GOD.
Tu peux les acheter aussi, mais tu peux les louer si tu préfères.
God.
Et toi, tu réceptionnes uniquement l'image du jeu. Tu n'envoies que les signaux de ta manette ou de ton clavier souris au serveur de OnLive qui héberge la partie en fait, au lieu que tu aies ta console qui tourne et qui fasse tout.
Ta micro-console.
Donc du coup, tu as juste un petit bidule, un petit boîtier
qui coûte que dalle,
télé, qui coûte rien et tu payes pareil.
Ou ton PC, ton Mac, peu importe.
Ton numéro de carte bleue.
Voilà.
Et c'est bon.
Mais alors le problème, c'est que pour l'instant, ça marche pas forcément super bien pour tout le monde.
Et surtout pas en France, mais c'est normal, les serveurs sont là-bas.
Bah voilà. maintenant, si demain on peut jouer à un Crysis 2 avec tous les détails à fond, sans avoir besoin d'une machine qui coûte je sais pas combien de milliers d'euros. Moi, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas, n'est-ce pas, les gars, hein?
Oui, non, mais une blague que vous n'avez pas dû entendre parce que Julo a poussé son. Je peux la dire pour les gens?
Oui, c'est une blague qui vient du cerveau de Traz à la base, qui a été ensuite mise en scène par mes soins.
Julo l'a modifié.
Bon, alors, mais c'est quoi la vanne?
Ah, pas, je pense que
je voulais la sortir. C'est vraiment, c'est la tienne.
Non, on disait juste qu'il mettrait des serveuses plutôt que des serveurs, peut-être ça marcherait mieux.
C'est très bon.
Alors voilà comment s'achève ce podcast.
Donc ouais, OnLive, c'est pas
c'est de la merde. C'est pas. Non, mais est-ce que tu y crois ? C'est ça la question en fait.
Ah, moi j'y crois grave. Alors quand je crois au système.
Est-ce que la PlayStation
OnLive,
4
je sais pas. D'autant qu'on voit que initialement, ça devait être un abonnement mensuel.
Oui,
et finalement, ils ont arrivé une masse critique d'abonnés suffisante pour. Bah, il y a plus d'abonnement mensuel maintenant. Donc on achète le jeu à l'unité. Moi, j'imagine peu dans les 20 prochaines années ne pas voir arriver un Sony, un Microsoft ou un Nintendo qui n'aurait pas une petite boîte comme ça et que ce soit du. J'ai dit quoi ? J'ai dit. Je sais pas ce que j'ai dit.
Et bah, décidément.
On est fatigués. En gros, qui deviennent des distributeurs de jeux, de
oui,
services,
oui, oui.
Plutôt que juste faire des machines qui leur coûtent extraordinairement cher, qui leur font perdre de l'argent, mais par pelleté de 12, Sony qui a perdu pendant plus de 4 ans de l'argent avec sa PS3 et des millions et des millions et des millions.
Microsoft, première Xbox, c'était combien c'était un milliard de dollars de perte, je crois.
Donc bon, c'est là où tu gagnes de l'argent, c'est avec les jeux, c'est pas avec les machines. Pas avant très longtemps. Ou il faut faire comme Nintendo et les vendre.
Après, il y a des problématiques techniques encore à régler, c'est clair, mais il y a de fortes chances pour que ça fonctionne. Tu vois, sur le film, tout ce qui est service de distribution de films et tout, ça marche vachement bien quoi, et moi je trouve ça vachement plus pratique que d'avoir nécessairement une platine de Blu-ray à la maison. Je ne sais pas,
vous
l'ouvrez. Non,
c'est pas ça, truc là,
que j'ai dit, voilà. La langue à fourcher, c'est
comme on s'est dit avant chaque
les
podcast,
nouveaux
en fait,
mots de Julien C,
dès qu'il y a quelqu'un qui parle, les autres doivent faire des vannes de leur côté,
c'est ça.
Comme ça, le mec se démerde tout seul à essayer de tenir le podcast alors que les autres n'écoutent pas. Bref.
Qu'est-ce que tu dis ?
Non, mais... En tout cas, je suis sûr que l'histoire te donnera raison, Raon.
Quelle classe.
C'est une certitude. Allez, question. Attention, là, il faut qu'on soit tous prêts. Là, il faut que les cerveaux soient mobilisés parce que là, ça va pas rigoler.
Ah, c'est la question du Pselo.
C'est ça.
Oh là là, alors, j'ai Pselo, mal à la tête, là, ça y est.
Bonne question, hein, de Pselo. Attention, le jeu vidéo est-il condamné à n'être qu'une avalanche de gratifications illusoires, décernées à tour de bras pour aboutir, abrutir et satisfaire le joueur derrière une façade de challenge et de scénario ? Messieurs, vous avez 20 minutes, les copies sont prêtes.
Bon,
copie
double.
Qui commence ?
Donc si j'ai bien compris, il parle des...
Alors attends, je relis la question.
Il parle des trophées.
Les trophées,
il
des machins.
Ah oui, les trophées,
mais
c'est bien
pas
ça.
Que ça, pas que ça.
Non, c'est les...
Derrière
aussi...
une façade de challenge.
Voilà, il parle
et
aussi
de scénario.
Dans le jeu, de certaines missions qu'on nous rajoute, etc. Pour donner de la gratification aux joueurs. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien moi, je ne crois
Tiger.
Pas. Parce qu'on a des exemples de titres qui se veulent des vraies expériences de jeu sensorielles. Je pense à un jeu que t'aimes beaucoup, par exemple avec Flower, qui est un exemple de jeu justement qui n'est pas dans la gratification du trophée ou des missions.
Oui, qui a été vendu à 3000 exemplaires.
Ah oui,
dommage.
Bon, c'est,
non, mais c'est, non, mais...
c'est comme tout.
Alors Limbo qui s'est vendu à plus que ça, qui n'est pas dans la gratification non plus. Voilà. Hein, il y a des trophées.
Non, mais
tout,
par contre, il est quand même plus... le gameplay est beaucoup plus important.
Limbo, c'est pas un jeu.
Dans Limbo,
le
que...
gameplay, mais pas les gratifications, les succès.
T'as la gratification à chaque fois que tu surpasses un de ces pièges qui se referme sur toi. Quoi. C'est-à-dire que la première fois, tu te le prends dans la tête, et la fois d'après, t'as trouvé l'astuce, et c'est là que t'as un système de gratification.
Certes. Alors bon, dans Heavy Rain, il n'y a pas de gratification particulière de prendre un pan de scénario ou l'autre ?
A priori.
Bah, disons que dans un scénario, quand même, tu te pends et ton gosse.
Oui, non, mais
il meurt dans ta presse. Connard, je l'ai pas fini.
Non, mais certes, oui, mais je veux dire, ça, c'est la toute fin du jeu. Mais pendant le déroulement.
Des fois,
du
la
jeu,
fin vient très vite.
Y a, oui, c'est vrai. Mais il n'y a pas de gratification. Effectivement,
oui, effectivement. Non, mais t'as raison.
Il y a énormément de jeux. La plupart des jeux, 90% des jeux, sont sur de la gratification. Mais à la fois, c'est un jeu. Et
oui,
c'est
ce que j'allais dire. On parle de jeux. Sinon, on regarde du vidéo art ou des bandes démo. Tu vois, pour le sensoriel, voilà, le jeu, il y a une gratification de toute façon. Dans le...
Non, mais ce que je pense qu'il.
Moi, je...
C'est vrai que tu peux avoir d'autres sortes de récompenses, de gratifications qui ne sont pas forcément liées à la réussite d'un objectif, ou etc. Ça existe.
Non, mais ce qui le saoule, Pselo, là, c'est que les jeux soient.
Lui, là. Bon, alors lui, là.
Non, mais je le comprends, mais j'ai envie de lui dire en fait que le jeu vidéo n'est pas forcément condamné à représenter cette avalanche dont il parle, mais il est condamné à être multiple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le jeu vidéo, alors il y a des cordes qui sont usées, mais alors jusqu'au bout, certes. Mais aussi, on vit dans un moment là où le jeu vidéo est vraiment multiple. Il y a de plus en plus de diversité en même temps.
En tous les cas, ils cherchent à s'affranchir de certaines choses.
Et je trouve que, en fait, on a plein d'alternatives à Gears of War, à tous ces jeux, qui sont un peu tous identiques les uns les autres. Et donc, je suis pas pessimiste, moi. Voilà.
Mais moi, je mettrais une nuance. Le jeu vidéo sera condamné à ces quêtes illusoires de la gratification et des récompenses si. Vous les joueurs, vous les gamers, quand il y a des jeux justement qui osent autre chose, et ben vous ne les achetez pas.
Ah bah
parce
oui,
que si c'est le cas, effectivement, il n'y aura personne qui va aller se lancer.
Quelque chose que tu
alors
peux
Obselo,
dans ces aventures.
Obselo, dis-moi à quoi tu joues et
je te dirai
qui tu es. Voilà.
Non mais voilà, c'est
à quoi joues-tu,
Obselo ? Le fait d'acheter un jeu, c'est aussi un acte militant pour laisser la chance d'avoir d'autres styles de jeu aussi. Parce que si vous n'achetez que des Gears of War, vous n'aurez que des Gears of War. Voilà. Ou que les jeux casual, parce que vous inquiétez pas, les casual, eux, ils en achètent du jeu. Allez, nouvelle question, celle de Stavanger. Stavanger nous demande, plus le temps passe et plus je suis convaincu que malheureusement l'industrie du jeu vidéo est l'industrie qui méprise le plus sa propre clientèle. Et donc, ma question, est-ce que vous pensez que petit à petit, on pourrait assister à un vrai clash entre les joueurs et l'industrie, avec d'un côté l'industrie qui regarde ses joueurs comme des pirates potentiels et de l'autre les joueurs énervés de se faire arnaquer à longueur d'année.
1m68 du jeu vidéo,
c'est ça.
On va aller lancer des pierres sur le bureau de Kotick ou...
On va lancer des Xbox première génération. Ouais, sur, voilà. Des trucs bien lourds.
Compliqué. Alors moi déjà, j'aurais envie de dire un truc qui va en choquer beaucoup, c'est l'industrie qui regarde ses joueurs comme des pirates potentiels. Oh mais les gars, il y en a beaucoup des pirates aussi, hein, et qui font du mal à l'industrie du jeu vidéo, et je ne le répéterai jamais assez, chaque acte, chaque copie de jeu, chaque fois que vous téléchargez un jeu, etc., si vous ne l'achetez pas derrière, parce que quelque part, si vous téléchargez un jeu et que vous l'achetez derrière, ok, pourquoi pas, passons, c'est presque une démo, mais si vous n'achetez pas derrière... Bah vous avez piraté, vous êtes un pirate, vous êtes un voleur, point. Vous avez volé du travail de quelqu'un, je suis désolé.
Et attention,
donc
la,
ça,
loi,
oui.
La loi Adopi est passée là, donc attention aux emails.
Non, mais ça c'est, et puis comme on le dit, c'est vrai que tu, moi je suis complètement choqué aussi par le fait que tu considères tout le monde comme des pirates potentiels, c'est pas normal.
Mais pourquoi tout le monde?
Bah parce les, que, les parce que par exemple quand tu mets en place bah si, parce que quand tu installes par exemple un problème genre qu'on a vu maintes et maintes fois, c'est les fameuses DRM sur PC, ça fait chier. Uniquement une classe de joueurs, ce sont les joueurs légitimes, ceux qui ont acheté leur jeu. Et ça, c'est un phénomène qui est directement résultant du fait que l'éditeur se dit tout le monde est un pirate potentiel.
Mais j'ai envie de dire, c'est la vie. Sur l'autoroute, on te met des limitations de vitesse uniquement parce qu'il y a des gros connards qui roulent beaucoup trop vite et qui tuent des gens. Et que, ben voilà, quand t'es dans un truc de masse, tu dois mettre des limitations imposées à tout le monde. C'est chiant, je suis d'accord, mais pour que ce ne soit pas le cas, il faudrait qu'on vive dans un monde où les gens respectent les règles implicites ou le travail des autres. Voilà.
Ouais. Mais d'ailleurs, et ça n'existe plus ça sur iTunes, non?
Les DRM, non, ils,
ouais,
les ont
virés.
Ils
les ont virés, d'accord. Voilà. Mais pourquoi ils les ont virés sur iTunes alors?
Bah pour pas pénaliser les gens qui gueulaient.
Parce qu'ils vendaient moins de fichiers.
Parce que quand t'achètes un album et que tu peux plus le mettre sur ton troisième iPod parce que t'as cassé les deux autres, bah juste t'es vénère quand même. Voilà.
Ouais, et puis Stavanger parle de se faire arnaquer à longueur d'année. J'ai envie de dire que acheter du jeu vidéo,
bah
ça peut être un acte militant aussi, tu vois.
Bah oui, non, mais
lui
c'est
de
vrai.
Décider, personne lui refourgue. Hein,
bah oui.
Et puis il faut pas oublier que le jeu vidéo, c'est un divertissement. C'est absolument pas essentiel à la vie. Ça veut dire que quand vous êtes joueur, c'est pas un dû d'avoir des jeux. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il y avait plein de jeux que j'avais envie d'avoir, qui coûtaient à l'époque 500 francs, 550 francs. J'avais 10 francs d'argent de poche par mois. Je peux te dire que pour acheter un jeu, j'économisais seulement et je revendais l'autre jeu que j'aimais bien, mais pour avoir 150 euros en plus et pouvoir finir à avoir le jeu. Ouais, mais à l'époque, c'était
des francs. C'est des souvenirs douloureux. Ça.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de droit à avoir des jeux, d'avoir tous les jeux, d'avoir toutes les expériences et toutes les consoles. C'est un divertissement, les gars.
Écoute bien, Stavanger. Moi, j'ai échangé mon Castlevania 4 sur Super Famicom.
Et je m'en mords encore les doigts.
Contre le jeu de catch de la WWF. J'y pense encore.
T'étais trop bête.
T'étais pas mal. Mais bon, Castlevania 4, quoi.
En tout cas, si un jour les joueurs énervés c'est de se faire arnaquer, je sais pas quoi, machin.
Bah, s'ils arrêtaient d'acheter, ils seraient pas arnaqués. Voilà.
Descendent dans la rue. Bah moi, putain, je vais faire une grève ou un truc comme ça dans la rue, pareil, contre les gens qui piratent, parce que j'en ai marre, l'espèce d'état d'esprit ambiant.
Ah, tu seras tout seul dans la rue.
Bah peut-être, mais j'en ai rien à foutre. J'aurai mon honneur avec moi au moins. J'en ai marre de cette putain d'état d'esprit de merde qui veut que tout est dû, qu'on doit avoir accès à tout, de la musique, du cinéma, des jeux vidéo, et que bordel de merde, que les autres ils s'en foutent plein les fouilles, etc. Bah il y a plein de développeurs qui crèvent, il y a plein de développeurs qui vivent chichement, il y a plein de développeurs dont c'est la passion et qui arrivent difficilement à joindre les deux bouts, et derrière les joueurs qui font non mais t'inquiète, les éditeurs ils sont blindés donc je peux le pirater comme je veux. Bah je trouve ça dégueulasse, point.
Ouais,
ouais.
Après c'est peut-être pas forcément la question de Stavanger, je suis désolé,
non, c'est pas forcément ça. Hyper accès voilà, uniquement sur le piratage,
mais ça me dégoûte, le piratage,
ça me dégoûte.
Dès que vous direz piratage, il y aura une tirade de Julien C.
Et pour tous ceux qui dans les forums, parce que j'ai déjà vu quand je le dis, etc., qui disent ouais mais Julien, et toi aussi tu dois pirater, jamais, tu m'entends,
quand même,
jamais,
tu sais.
Jamais, viens fouiller mon PC, viens voir.
Oh, fais attention, fais attention.
Mais
il y va y avoir des gens qui vont venir.
Il y a pas de jeu piraté, il y a pas de musique piratée, voilà.
Mais je pense pas qu'il y aura de clash entre les deux parce que c'est simple, au bout d'un moment l'industrie elle reste tributaire de sa clientèle et pas l'inverse. Et que le jour où les clients auront marre, et bah, l'industrie elle changera et puis c'est tout quoi. Voilà, donc c'est quand même ce qui fait la loi, c'est la thune, et la thune c'est les acheteurs qui l'ont, c'est vous, c'est nous, et
c'est la demande.
Ouais, la thune régit les gens. C'est pas qu'un sentiment.
Ouais.
C'est l'harmonie.
Allez, nouvelle question, celle de Crandor. Les jeux ont tendance à avoir une histoire minimaliste. Ce qui est attirant dans un jeu, c'est certes l'univers, mais je dois reconnaître que sans un bon scénario, j'ai tendance à vite zapper. En fait, c'est comme un bon livre, on est happé ou pas jusqu'au dénouement. Ma question est simple, le scénario est-il le talon d'Achille du jeu vidéo?
Oui.
Oui.
Ah, c'est je pas peux faire avec vous, je suis d'accord aussi. Alors, j'ai envie de dire, certains jeux, parce que tous les jeux ne sont pas forcés d'avoir de grandes histoires.
Faut quand même avouer qu'en termes de scénario, il n'y a pas 30 millions de séries où il y a du vrai génie. Et on en parlait, c'était hier ou avant-hier, on parlait de Soul River.
Mais c'était hier, ouais.
Je crois. Et bah, des histoires de cette dimension-là. Bon, alors en l'occurrence, ça court sur 4 épisodes. Mais où tu te dis vraiment à la fin, putain, je n'ai jamais rien lu ou vu qui soit comme ça. C'est complètement nouveau et c'est un scénar qui tue. Bah, il n'y en a pas des masses, quoi.
Mais non, mais genre,
on se cogne un paquet de clichés, c'est grave.
Moi, franchement, j'en vois plus du tout. Enfin, je suis moins expert que Raon, sûrement, parce que lui, il aime bien tous les univers un peu plus fouillés, etc. Genre Fable, etc., que moi, j'ai jamais vraiment fait.
Formula One, il y a pas de scénario. Non, ouais, c'est dur.
Bah, merci de me prendre pour un. Non. Moi, j'adore les jeux d'aventure et tout machin. Et c'est vrai que bon.
Mais regarde Monkey Island. La qualité de l'écriture, etc.
Mais là, maintenant, il n'y en a plus. Alan Wake, que j'ai presque fini. Pour moi, c'est super plat, quoi. Enfin, c'est pas mal fait, mais
j'ai pas été bluffé.
Ouais, mais c'est, vous en décolle jamais. Ça c'est toujours pareil.
C'est une question plus tard, ça.
Ah bon.
D'ailleurs.
Ah, d'accord.
Non, mais tu sais le.
Toi-même, tu sais.
Mais je parle d'Alan Wake là ou je le réserve pour après?
Bah non. Pour après.
Peut penser.
Ah oui, exact. Oui,
d'accord. Voilà.
Okay, bon, la personne n'a rien compris.
Mais, mais c'est pas grave. Non, vous allez comprendre.
Je suis d'accord avec toi, Trace, par rapport à plein de séries de cliffhanger, etc. Bon, il y a un petit cliffhanger de 2 minutes à la fin, de 2 minutes au début, puis après, c'est un peu plateau, quoi.
Non, mais il y a un autre truc aussi, c'est que la qualité des histoires.
Quand même,
la qualité de la fiction est vachement montée ces dernières années avec les productions de séries américaines. T'as quand même une qualité de l'écriture qui est juste dingue, des histoires de dingue, des univers de dingue, super bien foutu. Et donc, forcément, du coup, à côté, on fait pas le figure, quoi.
Et moi, j'ai le sentiment que, par exemple, avec Alan Wake, on singe plus une mise en scène cinéma plutôt que de vouloir élever des scénarios au niveau de certains films.
Oui, c'est-à-dire que c'est la narration qui est très réussie, mais pas l'histoire.
Exactement.
Et moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de bons personnages dans le jeu vidéo, bien travaillés. Si on parle d'Alan Wake, par exemple, Barry, je trouve que c'est l'un des meilleurs personnages sidekick qu'on a pu avoir, etc. En revanche, au-delà des bons personnages, les histoires au général reste somme toute assez classique.
Mais ce reste souvent un prétexte en fait, un gameplay. C'est pas forcément très bien lié parce que c'est un truc que le jeu vidéo doit vachement travailler aussi, je pense. C'est lié.
Si tu veux qu'on parle du gameplay d'Alan Wake.
Bah oui, justement. Non, mais c'est l'excellent exemple justement. C'est que le gameplay, c'est une pièce rajoutée, quoi. T'as l'impression que t'as pas besoin de jouer. Moi, t'as pas besoin de jouer pour vivre cette histoire, quoi. Et donc, vraiment mêler les deux, faire du gameplay un outil narratif à proprement parler et raconter des histoires par l'intermédiaire du gameplay, c'est encore quelque chose qui balbutie pour le moment. Mais moi, j'ai grand espoir que ça devienne de mieux en mieux et qu'on découvre vraiment une nouvelle grammaire pour raconter des histoires basées sur l'interactivité.
Julo. Il parlait de Talon d'Achille, hein, c'est vraiment mais complètement ça. C'est-à-dire que c'est le dernier truc vraiment en retard, je trouve, dans le jeu vidéo. Vu qu'on a vraiment franchi des gaps technologiques, etc., bien qu'il y a encore des trucs, genre l'animation, par exemple.
Ah bah oui.
L'animation, c'est un vrai Talon d'Achille.
L'animation,
aussi,
l'IA.
L'IA, voilà, effectivement, il y a quelques talons d'Achille, mais c'est vrai que il est temps de mûrir et de développer des vrais scénars, des vraies histoires, beaucoup plus subtiles et adultes.
Ouais, je sais pas si vous vous rappelez le débat qu'on avait eu sur Heavy Rain. Moi, j'ai beaucoup aimé Heavy Rain, j'ai trouvé que j'avais vraiment vécu un truc fort, mais presque le truc que j'ai préféré avec le jeu, et un peu comme dans Lost, c'est le voyage, c'est le après, c'est le fait de discuter avec des gens qui l'avaient fini,
tout à fait,
de comparer les expériences.
Pas le contenu en lui-même.
Voilà. Et moi, c'est ce que je disais à Julo.
Et pas seulement à plusieurs, d'ailleurs, y repenser même seul, après, etc.
Et ce qui est en fait, à mon sens, un grand jeu, un jeu marquant. Néanmoins, je sais pas si tu te rappelles, je te disais, si on parle juste du scénario, je trouve que ça fait scénario un peu.
Bah, c'est un polar de
policier,
c'est un polar de gare, quoi.
Donc c'est sympathique, ça se laisse manger et tout. Enfin bon, c'est pas non
mais
plus
regarde,
Tony
Tout le monde a vu Inception là ou pas?
Ouais.
Bah, quand on est sorti d'Inception, d'ailleurs, on s'était dit, mais quand est-ce qu'on verra ça dans les jeux?
Voilà. Bah, voilà, là,
non, j'ai pas vu, arrêtez de spoiler.
T'as un bon scénar, après j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas apprécié ou pas voulu comprendre ou je sais pas, mais en tous les cas, t'as un vrai scénar quand t'avais pas vraiment vu comme ça avant et on s'est fait la réflexion en
sortant de la salle.
Putain, un truc comme ça pourrait être une histoire vraiment de jeu, quoi.
Il veut en faire un jeu vidéo. Et il va se
laisser
le faire.
Maintenant, oui. Mais typiquement, c'est une histoire qui aurait pu naître dans le jeu vidéo et se retrouver complètement inadaptée.
Mais tu sais d'où vient le problème, je crois. D'ailleurs, je crois qu'on en est arrivé là en parlant un petit peu après. C'est que, tu sais, le jeu vidéo, c'est devenu, dans la façon dont on fabrique les jeux vidéo, toute une série de corps de métiers différents. Oui. On s'est spécialisé vraiment de plus en plus. Le mec qui fait l'animation, il fait que de l'animation. Et il manque, en fait, alors soit. Il y a toujours un chef d'orchestre, je sais pas, tu vois.
Mais
tu parlais d'Heavy Rain, ce serait David Cage, etc. Mais en fait, je pense qu'il faut faire venir des vrais scénaristes. Mais des scénaristes qui connaissent, non mais qui savent comment fonctionne un jeu vidéo, des mecs qui jouent. Et que le mec soit talentueux pour écrire quelque chose, mais qui est écrit pour le format jeu vidéo et qui puisse s'épanouir dans le cadre du jeu vidéo.
C'est le cas d'Ami Hennig, voilà.
Qui travaille sur
Soul River,
qui a fait Uncharted et qui a créé toute la mythologie et tout l'univers de Soul River.
Uncharted, c'est pas mal, c'est bien écrit, c'est sympa, mais c'est pas une grande histoire, quoi.
Non, l'histoire est très classique.
Non, mais cela dit, un des trucs brillants du jeu, c'est la façon dont voilà tout est
narration, tout est amené, etc.
Mais je le redis surtout parce que c'est elle qui a créé Soul River et que moi personnellement, ça reste une des plus grandes histoires qui a été écrite
pour un jeu.
Pour un jeu.
Mais justement, il y a un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps qui a fait beaucoup de débats parce que la fin est ratée malheureusement et parce qu'il y a des petits problèmes techniques. C'est Enslaved. Et lui, c'est écrit par Alex Garland, qui est réalisateur et scénariste.
28 jours plus tard,
par exemple, de films avec des vrais bons scénarios. Donc il connaît l'écriture et apparemment vraiment. Alors malheureusement, j'y ai pas joué encore, mais toutes les personnes qui m'en ont parlé, que ce soit Mimic ou d'autres, le scénario jusqu'à la fin, malheureusement la fin est pourrie, mais se tient super bien et on a des personnages très intéressants.
Bah, Mimic, c'est ce qu'il disait en fait. En gros, le jeu est bourré de défauts. Et ce qu'il sauve, c'est qu'il y a une histoire qui l'a complètement fait voyager tout le jeu durant et qui s'écroule comme un château de cartes apparemment à la fin, ce qui est dommage.
Ouais. Mais imaginez,
c'est parce qu'il y
a
aussi
des
personnages très travaillés.
Les personnages, apparemment, le rapport entre les personnages est hyper intéressant.
Et c'est aussi peut-être probablement un des problèmes dans le jeu vidéo, c'est que habituellement, une bonne histoire, que ce soit dans un bouquin ou au cinéma ou dans une série télé, ce sont les personnages qui en général portent l'histoire. Et dans le jeu vidéo, comme c'est le joueur qui incarne la plupart des personnages, ça devient plus délicat de porter une bonne histoire.
De garder un rythme aussi.
Oui, effectivement. Voilà. Donc savoir exactement à quel moment tu vas placer telle ou telle révélation, parce que bon, c'est beaucoup plus difficile à maîtriser le jeu vidéo que quelque chose d'arrêté comme une pièce de théâtre ou un film. Mais je ne désespère pas qu'on arrive un jour à faire des choses incroyables.
On va y arriver.
Mais c'est un vaste terrain. Vraiment.
Encore jeune.
Mais c'est clair. Tu sens que dans 10 ans, on n'y est pas encore. Hein, franchement.
Tu prends les comics, les 30 premières années, c'était juste des conflits cosmiques, arrêter des voleurs et tout. Et maintenant, tu as des problématiques politiques. Voilà. Tu gagnes une maturité dans le propos au fil des années.
Ouais. Bah, même regarder les premiers films, hein, 40 ans après la création du cinéma.
Les premiers films, c'était même pas des histoires.
Non, mais ils se coursaient derrière encore. Il y avait quelques.
Oui, il y a
quand
même quelques chefs-d'œuvre du début du cinéma qui ont quand même une portée autre que juste l'objet filmique. En fait.
Mais on en a aussi dans le jeu vidéo, mais c'est vraiment des exceptions.
Oui, c'est ça. Fait.
Et le jeu vidéo, une fois de plus, est un peu timide, un peu frileux à prendre des vrais risques et parler de vrais problèmes de société aussi. Il y a plein de thèmes qui n'ont jamais été abordés.
Mais c'est ce qui fait que ça va être fantastique et qu'on est là. Parce qu'on sait que ça va arriver, on sait que ça va se développer, que ça va devenir de mieux en mieux.
Et c'est peut-être parce que le jeu vidéo est toujours un divertissement et pas encore un art à part entière. Moi, c'est ce que je pense en tout cas.
Mais c'est pas forcément en cherchant à être un art qu'on
le progrès du comic, tu vois. Voilà.
Allez, nouvelle question, celle de Aoi Neko. À propos d'androgyne prépubère à la coupe en pétard, n'en avez-vous pas marre de ce stéréotypage des héros de RPG japonais? Les japonais se retranchent derrière leur droit à la différence, mais je trouve que ça en devient presque sectaire. D'ailleurs, cela n'a pas toujours été le cas et semble surtout trahir une sorte de repli sur soi-même. Espérons que la crise que traverse le jeu vidéo japonais serve au moins à réouvrir les vannes de la créativité artistique. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs?
Je suis d'accord avec Serge. Non, il a tout à fait raison, c'est vrai que c'est fatigant. En plus, les RPG japonais, peut-être pas tous ici, mais la plupart, c'est un truc qui nous a bercé pendant des années, nous a tellement fait voyager, etc. Et aujourd'hui, quand tu regardes FF13 ou d'autres, j'ai presque l'impression que c'est pire au niveau niaiserie.
Ah, mais c'est oui, mais grave.
Ah, puis les personnages
Final Fantasy 6 et Final Fantasy 13, tu chiales quoi.
Ouais. Carrément. Donc, je joue plus au RPG japonais. Principalement à cause de ça.
Voilà. Moi, c'est pareil. Mais aussi parce que j'ai plus le temps de m'investir dans un truc de 80 heures. Quoi. Donc,
mais est-ce que vous pensez que ça peut changer? Ou est-ce que vous pensez que c'est leur filon?
Je suis assez pessimiste.
Toi, tu connais encore mieux la culture japonaise et l'état d'esprit des japonais par rapport à leur propre culture.
Je suis pas un spécialiste.
Oui, parce que les héros suivent quand même le style vestimentaire à la mode plus ou moins des jeux.
Bien sûr, Versus 13, c'est l'exemple de base. C'est-à-dire que t'as des marques.
Enfin, ça, c'était la touche. Comment il s'appelle?
Nomura.
C'était la touche Nomura.
Mais il incarne parfaitement justement cette tendance-là et ses dérives, justement, le petit père Nomura quand même. Parce qu'avant, FF6, c'est pas Nomura, quoi.
Non.
Enfin, pour venir un petit peu en aide quand même aux japonais, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui ont un charisme incroyable dans les jeux japonais, même s'ils sont exubérants, avec des coupes folles et des tenues invraisemblables. Et c'est vrai que, alors de plus en plus, mais qu'il a fallu quand même beaucoup de temps aux développeurs occidentaux pour réussir à nous faire des personnages auxquels on a un peu envie de s'identifier ou envie de suivre. Avant, c'était quand même des gros malabars avec des gros muscles,
oui,
des têtes de
cons.
L'inverse,
en fait.
C'est ça. Ouais. Sauf que maintenant, effectivement, les Occidentaux arrivent à un peu mieux marier les choses.
Un peu plus de finesse.
Un peu plus de subtilité, ouais.
Mais t'as quand même des créateurs japonais qui créent des personnages qui n'ont rien à voir avec ces stéréotypes-là.
Ah, ouais, ouais.
Suda 51, par exemple.
Non, mais il ne fait pas des RPG, là. Il parle d'RPG japonais.
Oui, c'est vrai. Mais ça veut bien dire que ce n'est pas un syndrome qui est lié au fait que c'est des japonais.
Ouais, ouais, non, mais ça, c'est des jeux rock'n'roll. Mais c'est vrai que pour faire un jeu qui marche au Japon, quand même, il faut que tu fasses très très attention à des trucs établis, quoi. Et un personnage, par exemple, le character design, c'est primordial.
Ah bah pour c'est une discipline à part entière. Ouais,
c'est au cœur de tout, quoi. C'est-à-dire, il faut d'abord que tu aies des personnages, etc. Après, il y a d'autres trucs. Si les jeux occidentaux marchent pas trop trop au Japon, c'est parce qu'ils ont pas le même rapport que nous aux bugs aussi. Et là, je vous invite à lire une des chroniques de Christophe Kagotani qui on publie ça sous le nom From Japan sur Gameblog. Il y a un thème et tout, un tag, pardon. Il parlait de ça, des bugs au Japon. On n'a pas du tout la même approche par rapport à ça. Enfin, tout doit rentrer dans un moule un petit peu, que ce soit au niveau des personnages, au niveau du déroulement, etc. Et ils ont un peu du mal à en sortir. Et on sent que les créateurs japonais, quand tu parles aux créateurs japonais ou aux journalistes, etc., les professionnels, en fait, ils jouent beaucoup aux jeux occidentaux, etc. Ils sont en train de s'en inspirer beaucoup. Mais le public, il est différent. C'est-à-dire, il est vraiment ancré. Il a besoin de ses repères, etc. J'ai l'impression. Ah bah, c'est mon impression.
Mais de toute façon, la formule du RPG japonaise, elle est hyper rigide, même s'il y a eu plein de travaux au sein de cette formule.
Ouais.
C'est pour ça qu'on fait autant de différence entre un RPG japonais et un RPG occidental. Ouais. C'est pas du tout la même expérience.
J'aurais une question à vous poser quand même. C'est si aujourd'hui, Cloud et Sephiroth de FF7, qui font partie quand même du panthéon des personnages
j'ai trop envie de répondre
japonais,
à ta question.
Est-ce qu'on les regarderait en faisant putain, mais c'est quoi ces ringards avec
ils font super pitié.
Voilà. Ou est-ce qu'on
fait
c'est
la classe.
Non, Sephiroth, c'est l'un des plus grands personnages du jeu vidéo ever.
Oui, mais il sortirait maintenant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce
pareil.
Qu'il
fait. Justement, il n'a pas une
coupe
gominée à la con.
Va être bien,
non, non,
il n'a pas une coupe gominée à la con.
Par contre, Cloud, Barrett...
c'est les mêmes, hein.
Et Kate Seat, ouais. Etc. Non, mais au secours, quoi. Et j'aime
tant, on a surtrippé.
Moi, j'aime. Ouais, putain, mais au secours. Ouais, mais...
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question un peu de.
Mais
d'âge
c'est
aussi,
exactement sa question, c'est que ça tourne en rond. Ouais. Ils nous les resservent, c'est les mêmes. Enfin, je veux dire.
Et puis, on a vieilli, nous aussi.
Oui, évidemment. Évidemment. C'est-à-dire que si c'était notre premier.
On a tous vieilli, Julo, il n'y a pas que toi, t'inquiète.
Mais si c'était notre. Si, j'imagine qu'il y a des gens qui découvrent peut-être Fantasy avec le 13 et qui découvrent des personnages qui pour eux sont super classe.
De toute façon, t'as ta réponse. Hein, quand tu regardes le DVD d'Advent Children, t'as un Clad qui est devenu hyper poseur. Voilà, il n'y a pas ce second degré aussi, parce que sur PlayStation, c'était du SD aussi, les petits personnages. Donc. T'avais un côté rigolo maintenant.
Et puis il y avait de l'humour, il y avait des trucs.
Oui, tout à fait.
Et dans Advent Children, il n'a pas du tout la coupe qu'il a dans
le
jeu.
Ah non, pas du tout.
Et là, c'est chaud. Qui font que 15 cm de haut, alors que sur PlayStation, c'est quoi ? C'est 1m50 le bout de la pique, là.
Bon. Ouais, mais par contre, quand tu vois les Japonais qui sont dans la rue, dans les quartiers, machin, ils ont quand même des marques de gel, ça rigole pas.
Ah non, ça rigole pas.
Il y a quand même le jeu de. Comment il s'appelle ? La Story ? Le jeu de bon sang, comment il s'appelle,
Sakaguchi Hironobu,
ouais, qui est un peu différent, hein,
tu il reste bien coiffé quand même, hein.
Ils sont toujours ils sont super bien coiffés, c'est plus l'élégance un peu médiévale,
ouais.
Mais quand même avec des couleurs de cheveux assez acidulées, hein, pour rester dans le temps, quoi. mais c'est plus classe
ouais.
c'est Lost Odyssey, leur tenue est un peu particulière, ouais, mais le héros par exemple, il a pas des cheveux en pique, en pétard, il est brun, avec
il ressemble à rien, en fait,
noir, il a une vieille mèche,
il a un tête de mec dépressif un peu,
oui c'est ça,
mais il est
pas super charismatique, je suis bien d'accord. Mais il est pas excessif dans sa tenue.
Oui.
Il est plutôt sobre. Mmh. Voilà. C'est un mec qui a.
À moi, il me semble surtout très interchangeable, en fait, tous ces personnages.
C'est
ça le problème, quoi.
Mais l'histoire, moins de Lost Odyssey. Enfin bon. Allez, on va passer au segment des questions qui concernent Gameblog, qui concernent directement la rédaction, dans lesquelles vous allez pouvoir apprendre certaines choses en avant-première sur l'évolution du site ou pas, ce qu'on va découvrir tout de suite, avec une question de Brogus. Alors, Brogus nous demande, à quand une modification de votre système de notation, ajout des plus et des moins par exemple, pour synthétiser un peu le tout, une notation chiffrée, point d'interrogation ?
Sacrilège.
Parce que je pense que le système porte préjudice à de nombreux titres qui sont bons, mais qui, quand ils sont comparés au ténor du genre, sont inférieurs, et donc on se voit attribuer une ou deux étoiles en moins. Alors, il y a plusieurs questions dans la question.
Ouais,
on va commencer par le système de notation avec les plus et les moins et un petit résumé. Quoi,
voilà, bon, ça, la réponse est simple, ça va venir.
Voilà, voilà. On y pense depuis
ça,
un bon bout de temps et ça va arriver. Vous inquiétez pas, voilà. Ça va être intégré au mieux.
Après, pour la notation chiffrée, en fait, on a pris le parti dès le départ de justement éviter les chiffres et de passer aux étoiles pour éviter le plus possible les parallèles avec un système scolaire ou graduel ou vraiment mathématique, des choses. Parce que, bon, on lit de toute façon depuis longtemps maintenant, la critique, c'est pas un exercice de. C'est de la critique, c'est pas du test de machine à laver. Donc, il y a des critères objectifs qui interviennent dedans, c'est vrai, mais on n'est pas particulièrement à cheval sur le fait qu'une critique doit forcément être une objectivité incroyable. Je veux dire, l'objectivité absolue, ça n'existe pas. On a tous des sensibilités différentes, on a tous un passif différent, des envies différentes. Et même si on a de l'expérience et qu'on propose des critiques le plus possible à la lumière de cette expérience pour qu'elle soit riche, elles n'ont pas foi à être une vérité absolue. Voilà. Donc,
ce qui est intéressant de notre point de vue avec le système d'étoiles aussi, c'est que
ça permet de trancher.
Ça permet de trancher véritablement. Il y a pas de note moyenne, sauf si on considère le zéro qu'on a donné, je crois qu'un
une
jeu.
Seule fois, ouais, c'était super naturel.
À ce moment-là, la moyenne serait effectivement. à 3. Oui. Mais ça t'oblige à trancher en fait, et ça c'est intéressant parce oui. que on veut éviter d'un même côté, on veut essayer d'éviter que du vôtre, de votre côté,
il y a une non-décision.
Non, mais que tu compares sans cesse en fait. Ouais. Tel jeu, il a eu 12 et l'autre a eu 13. Alors qu'en fait, vous dites que machin, etc. Et c'est absurde parce que chaque test a sa vérité, à son moment donné, etc. Et donc, je trouve ça très, comment dire. Enfantin de vouloir comparer deux notes en fait. Et plus le système est resserré, moins t'as envie de comparer parce que finalement, ce qu'on vous dit avec les notes, c'est exceptionnel, c'est très bon, c'est trop moyen et c'est nul. Voilà.
C'est une chose qui va apparaître, qu'on va faire déjà, effectivement, ça n'existe pas aujourd'hui, c'est bien vous expliquer ce que veulent dire les notes. C'est-à-dire que
oui, la gradation
5 étoiles,
des 5 étoiles ouais.
pour nous, c'est allez-y. Foncer, les yeux fermés,
oui, ça
c'est un excellent jeu.
Pas dire que c'est un jeu,
il faut
parfait.
L'acheter, etc.
Et d'ailleurs, on ne voulait pas s'interdire de mettre 5 étoiles. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Bon, c'est que des très très bons jeux, évidemment. Mais
y
pourquoi
y sont,
avoir un système de notation et pas utiliser toutes les notes? Donc, on s'est dit, voilà, il y a 5 étoiles quand c'est vraiment super mm-hmm. bien et génial et quand c'est un milestone,
ouais.
etc. On met 5, quoi.
Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de publications qui notent sur 10 dans le jeu vidéo et ailleurs. Et il y a très rarement des 10. Alors à quoi ça
Parce
sert
que,
effectivement d'aller jusqu'à 10, tu vois, dans cette échelle.
Ouais.
Et de la même façon, quand 5 étant la note moyenne sur une échelle de 10, de la même façon...
Les gens mettaient pas 5 un
voilà,
jeu moyen.
Exactement.
Ils mettaient 7,
voilà.
6, 7 un jeu
Donc,
moyen.
Donc ça n'avait aucun sens. Et nous, on a du coup, on s'est dit, on va noter sur une plus petite échelle. Et la zone sensible qui est entre 2 étoiles et 3 étoiles, en fait, est-ce que c'est en dessous de la moyenne ou est-ce que c'est au-dessus de la moyenne? On est obligé de trancher et de dire bah pour moi c'est en dessous de la moyenne ou c'est un peu au-dessus de la moyenne. Y a pas vraiment de, on est obligé de risquer en fait,
en sachant qu'on vous le demande s'il vous plaît de prendre ces étoiles vraiment pas comme un multiple soit de 10 soit de 20,
oui.
genre ne le multipliez pas 4 par 4 pour avoir la note sur 20 ou ne le multipliez pas par 2 pour avoir la note sur 10, ça n'a rien à voir, c'est vraiment des appréciations, des sentiments et des incitations à vous soit de fuir soit d'y aller vraiment soit de bah, écoutez, il y a mieux dans le genre, etc. Mmh. Et n'oubliez pas aussi les coups de cœur.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a des coups de cœur.
Il y a les coups de cœur aussi qui... Bah, tu peux en parler, Traz.
Bah oui, les coups de cœur, c'est que vraiment... vous pouvez maintenant retrouver, synthétiser. Il suffit de cliquer dessus et vous avez tous les coups de cœur.
Voilà. Cliquez sur le logo coup de cœur.
Exactement. Donc les coups de cœur, c'est vraiment, ça peut... il peut y avoir des jeux qui ont 3 étoiles. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre 3
oui,
étoiles à un
aussi.
Jeu et de mettre un coup de cœur avec, parce que effectivement, le truc était bien fait et qu'on se dit que s'ils amélioraient quelques petites choses, ben, une suite éventuelle pourrait être extraordinaire. Donc voilà, ça encourage aussi le développeur à peut-être aller plus loin. Et puis c'est un jeu qui nous a plu et qui techniquement n'est pas forcément extraordinaire, mais en tout cas on a pris son pied et on est content. Donc le coup de cœur, voilà, tout simplement.
Les gens sont pas tous sensibles aux mêmes choses. Il y a des gens pour qui le visuel c'est vachement plus important que le gameplay,
exactement.
Inversement, etc. Et quand nous on écrit une critique, forcément on est obligé d'essayer de s'adresser quand même au plus grand nombre, donc de tenir compte de tous ces publics différents. Et même si on reste subjectif, le coup de cœur permet, même quand on reconnaît qu'un jeu finalement... ne vaut pas forcément plus de 3 étoiles parce qu'il est un peu plus au-dessus de la moyenne et qu'il a plein de défauts ou de bugs ou de machin ou de bidule, et ben au niveau sensible de nous, de vraiment de joueurs, on l'a vraiment adoré pour telle ou telle raison qu'en général on écrit dans le texte, et quoi qu'il arrive il faut lire les textes, voilà.
Exactement. Allez, nouvelle question de Néon 236.
Oh non, pas lui.
Étant un grand nostalgique de l'ère bénie des dieux du Mac Joypad, je me demandais si
c'est quoi ce Mac
Joypad, tu sais.
Joypad, bon,
Joypad, un pad avec
si
qui donne de la joie.
Si ce ton décalé, cette atmosphère pouvait être encore rendue sur un site comme le vôtre, ou s'il n'y a pas par obligation des développeurs, il faut apprendre à écrire, monsieur. Des développeurs,
non,
et éditeurs, un ton plus consensuel, plus langue de bois à adopter. Je vous dis ça car j'ai souvent remarqué que vos avis étaient beaucoup, voire souvent, plus cinglants une fois le jeu sorti depuis quelques mois.
Non,
alors
non.
Ça, il y a plein de choses à te répondre. Déjà, savoir que non, il n'y a pas de pression des éditeurs et des développeurs sur notre manière de nous exprimer, de noter les jeux ou de faire ce qu'on veut. Le contenu éditorial de Gameblog est géré intégralement par la rédaction de Gameblog et personne d'autre.
On n'a aucune pression.
Voilà. Alors, voilà. Si parfois il y a des gens qui nous disent « Oh non, mais t'as mis une mauvaise note, etc. »
Bah oui.
Ouais, bon, bah, discute. Mais c'est pas pour autant que ça va changer. Hein.
On argumente, on discute et puis on dit voilà, pourquoi on a mis
ils sont pas toujours d'accord et pas toujours heureux de nos choix. Et parfois, ils sont heureux quand c'est bien. Mais bah, c'est nos choix. Voilà. Et il faut les respecter.
C'est mon choix.
Quant à savoir si on peut faire un ton équivalent au magazine Joypad à l'époque de Hachette.
On essaie d'être nous-mêmes. Hein.
C'est ça. On n'a pas une charte avec marqué attention, respectez la charte Joypad. Ou...
Deux vannes minimum par news. Hein.
C'est ça.
Tout à fait, Jean-Pierre.
On est nous-mêmes. À l'époque de Joypad, aujourd'hui, demain.
Après-demain.
Peut-être même après-demain.
Peut-être. On agit à l'instinct, à ce qui nous paraît juste de faire. Quand ça nous paraît bien de mettre une blague, ben on la met. Quand ça nous paraît pas juste de le faire, on le fait pas. Quand ça s'y prête, on le fait. Quand ça s'y prête moins, on le fait pas.
Après, enfin, c'est vrai qu'on fait beaucoup plus de contenu aujourd'hui, en fait, qu'à l'époque. Donc, ça joue probablement beaucoup. Il y a tellement de news et tellement de trucs qui paraissent et tellement de contenu que certaines choses peuvent paraître plus diluées qu'elles ne pouvaient l'être à l'époque de Pad où tu retiens ce que tu as lu. Quoi.
Ah bah non, il y avait 160 pages en gros
de rédactionnel, ouais.
De rédactionnel. Aujourd'hui, bah, compter le nombre de pages qu'il peut avoir par mois sur Gameblog, c'est assez colossal. Donc effectivement, si vous lisez tout et que vous cumulez sur 160 pages, vous aurez le même ton toujours qu'à l'époque, quoi. Vous retrouvez Traz en train de péter les câbles, vous faire des regards de ouf comme Poufy vous l'a montré dans son blog. Enfin, voilà, c'est on reste authentique.
Il y a aussi la partie
avec un gars.
authentique et en toque.
La partie comme quoi on serait plus cinglant une fois le jeu sorti. Il faut aussi préciser que.
Il faut préciser à quoi il fait référence peut-être.
Parce que tester un jeu plusieurs mois après sa sortie, je trouve ça bizarre.
Non, c'est-à-dire quand on reparle de certains jeux qu'on a testés avant où on est plus peut-être sévère. Bah, après,
j'ai supprimé un passage dans son truc, mais il faisait référence à Final Fantasy XIII par exemple où il disait parce que c'était le grand débat où comme j'avais animé un truc sur Final Fantasy XIII et du coup je disais ah ça a l'air chouette machin etc.
Oui, oui,
et
bah, tard, ouais, c'est on a mis une note
assez médiante à Final Fantasy XIII et c'est vrai que dans d'autres podcasts derrière j'ai dit que moi ça m'avait vachement déçu etc.
Et on vient de leur dire il y a pas plus tard qu'il y a trois questions.
Mais tout à fait, Jean-Pierre. Il faut bien dans notre grande naïveté. On part toujours du principe que tant qu'un jeu n'est pas sorti, fini, etc., il a toujours une chance de corriger certains défauts. Donc on les évoque.
Et puis tant qu'il n'y a pas à jouer personnellement, parce qu'on est nombreux autour de cette table. Alors il y a celui qui teste le jeu, il y a ceux qui le regardent y jouer, qui ont déjà un premier avis, puis après ces gens-là y jouent, et puis ils ont un avis différent, on en discute, et puis ça ressort dans les podcasts où, bah, par exemple, Alan Wake. Voilà,
C'est vrai qu'Alan Wake, vous auriez probablement pas mis la même note que moi, Alan Wake.
Bah, peut-être, moi j'y ai pas encore joué. Je vais y jouer l'année prochaine, je pense.
J'ai toujours pas fini, mais je suis pas lent.
Alors effectivement, voilà, c'est
j'en
pas un scoop.
Un, je pense.
Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs aussi qui aimeraient bien qu'on fasse plusieurs avis, mais le problème c'est que on n'a pas le temps.
Mais alors, des avis écrits, effectivement, c'est compliqué parce que il faut voir aussi que Gameblog aujourd'hui est pas une entité gigantesque.
Voilà.
Et du coup, bah, on a
qu'une
télé.
Pas beaucoup de temps pour le jouer à ces jeux au moment où ils sortent et faire ses avis au moment où ils sortent.
Souvent chez nous le soir tard parce que nos journées sont faites pour faire plein de choses que vous voyez certaines. On va en reparler bientôt et pour d'autres choses.
Néanmoins,
vous savez que vous pouvez trouver nos notes parce que nous, comme vous, on peut noter les jeux.
Oui.
Et parfois, bah, sans même laisser un test écrit, bah, je sais que Julo, Raan, Traz, Tiger, moi, et bah, les jeux auxquels on a joué,
note.
On met une note. Donc bah, allez voir dans les notes sur les fiches jeux et vous verrez, étrangement, apparaître les notes de Julo, de Raan sur d'autres jeux. Et vous verrez que parfois, c'est pas exactement la note, on se sent pas obligé de mettre la même note
que son
pote qui l'a testé. Quoi.
On y réfléchit aussi, on va peut-être trouver un moyen de sortir un petit peu ça pour donner une page avec une revue de presse en fait, des gens. Bon, évidemment, après, ça sera pas pour ça que ce sera là au moment de la sortie, parce que comme tu l'as expliqué,
exactement.
On joue pas forcément au même moment, mais au moins ça y sera. Quoi.
Voilà. Exactement. Donc voilà, on essaye toujours. d'avoir le plus d'avis possible, et vraiment on n'est pas plus cinglant avant qu'après. Une fois de plus, si tu fais référence à FF13, moi j'étais peut-être plus cinglant que Mimic, parce que peut-être que j'étais plus déçu que Mimic, sauf que c'est pas moi qui ai fait le test, voilà, et que du coup à l'époque je ne pouvais pas me prononcer puisque c'était pas moi qui faisais le test, c'est tout. Nouvelle question, celle de Anne Falmir.
Je crois qu'il veut que tu dises Enfalmir, non ?
Mais je crois que je l'avais lu et je savais plus.
Alors je sais plus dans
au moment,
sens.
Je te jure, au dis-le moment de le lire, j'avais un doute.
Il n'avait pas fait une menace hyper lourde s'il se plantait.
Merde. C'est... Alors Enfalmir. Voilà.
Non,
Enfalmir.
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 Voilà, très bien. il semble y avoir de très bons retours quant à la nouvelle formule des tests vidéo. Peut-on s'attendre à vous voir présenter de vieux jeux ? C'est une excellente idée.
Ouais. Moi, moi aussi, j'adorerais. Ça serait génial.
Et alors là, une fois de plus, question de temps.
Ouais. Ça serait génial.
Ah oui, ça serait génial, mais si les journées faisaient 600 000 heures,
ça
serait fantastique. Merci pour bonnes idées.
Non, alors c'est vrai que bon, dans un premier temps, on va déjà essayer de
péter un
bien
câble.
Se concentrer.
Mais pas tant, vous allez vous taire, hein, parce que les bonnes idées, il y en a marre.
Non, il va péter un câble dans quelques instants. Je crois que c'est la question juste après. Ah, on va laisser Prince répondre.
On va unleashed.
On va essayer déjà de se concentrer à faire des bons tests vidéo sur les jeux du moment qui vous intéressent quand même dans l'absolu. Et effectivement, si on a un peu le temps,
une
ou sur les coups de cœur,
ouais.
Exactement, ouais, comme ça, on en glissera.
Et n'oubliez pas, que dans la nouvelle version de Versus,
oui,
il y a désormais du rétro gaming avec AHL et Crevette tous les mardis.
Exact.
Voilà, tous les mardis sur Gameblog.
En tous les cas, ce que vous pouvez, d'une manière générale, pour toutes ces questions et ces idées que vous proposez dans le forum peu partout, vous pouvez être certain que la plupart circulent au bout d'un moment quand on les a vues et ressortent quelques temps plus tard quand on a réussi à les concrétiser ou machin. Enfin, on n'oublie rien de tous ces trucs-là. Quoi.
Et puis, à l'image de ce podcast qui vous est dédié, le courrier des lecteurs, et vous le voyez désormais, on le fera de manière mensuelle, vous avez bien conscience que, effectivement, si on ne répond pas toujours sur les forums, parce que vous allez comprendre avec les questions d'après, on a beaucoup de choses à faire, on regarde, on lit beaucoup, et on note, et on prend plein de trucs. Après, une fois de plus, si on était 55 personnes à travailler à Gameblog, ça irait vachement plus vite.
On n'est que 54.
C'est ça. Il en faut un encore. Allez, question de Master Chen.
Ah, oh, Master Chen.
Master Chen.
Bah ça vient de Shenmue, ça.
Ouais, c'est possible.
Voilà, j'ai dit Shenmue.
Je pense qu'on peut passer le micro à Trace, parce que je crois que la question, il a des choses à dire. Moi, je me demande toujours comment vous faites, vous, les journalistes de jeux vidéo, pour tester autant de jeux à fond. En moyenne, 8 heures de jeu, mais certains sont bien plus longs et demandent beaucoup d'investissement. Et avoir une vie privée normale, enfin, je pense. Et enfin, malgré tout, arrivez-vous à faire tous les jeux que vous aimeriez faire ? Oh bah alors, mec, là, tu vas pas te déçu du voyage. Non, Trasum.
Alors, tous les jeux que j'aimerais faire, non, ça c'est impossible. J'ai une liste comme ça chez moi de jeux.
Pas une liste, c'est une pile de jeux.
Voilà, une pile de jeux, pardon. Pas encore décéléphoné. Donc, déjà, au secours. Donc, là-dessus, effectivement, c'est juste impossible. De
Ensuite, est-ce que tu considères que tu as une vie normale ? Une vie privée normale ?
Bah, non. Bah, il faut que je le dise. Hein.
Trace n'est pas normal. En même
j'ai,
temps.
Pas, j'ai pas une vie privée normale parce que, effectivement, à force de faire des tests.
Tu dors sur le canapé ?
Voilà, je dors souvent sur le canapé. Le soir, je m'endors devant la télé comme un crevard parce que j'ai joué à un jeu jusqu'à 3 ou 4 heures du mat. Et donc, voilà. Et puis voilà quoi, donc c'est un peu compliqué tout ça, surtout de période de fêtes de fin d'année, etc., où il y a plein de jeux à tester. Donc après, ça se calme un petit peu, heureusement, mais quand il y a des périodes très très lourdes comme ça, c'est très très compliqué d'allier boulot et vie privée, j'avoue.
J'ai envie de dire,
moi j'ai résolu le problème.
Prenez juste la GameCam et faites un décompte des horaires. Et vous verrez qu'elle est allumée généralement assez tard, parce que nous arriver de rentrer assez tard.
Mais c'est surtout que même
mais
quand on rentre,
mais
encore.
Mais
bah
ça,
oui.
Ça.
Si c'était que la rédaction, à la rigueur, bon, on dirait qu'on a des journées à peu près normales, mais c'est pas le cas, quoi. Je veux dire, quand on rentre chez nous, on bosse.
On a des devoirs.
Week-end,
on continue
ça,
on
le matin avant d'arriver aussi, parce que vous pouvez nous voir parfois vers 10h ou 10h30, mais en fait, la journée, elle a pas commencé quand on arrive.
Elle a commencé à 8h.
Il y a eu des news, il a fallu les relire, il a fallu les mettre en page, il a fallu les publier. Parfois, il y a des rendez-vous, il y a plein de choses. Et puis il faut pas oublier que c'est une passion. Donc c'est génial.
On
a une chance rare quand même.
On n'est pas en train de se plaindre.
On a la chance rare.
On se plaint de pas avoir de temps.
C'est ça le problème.
Mais c'est une passion qui est dévorante et qui vous prend énormément de temps, et que aussi c'est un métier, et que comme le dit Traz, il y a plein de jeux auxquels on a envie de jouer tous. Hein. Julo, il est en train de se faire les Assassin's Creed avec plusieurs années de retard. Il y a plein de jeux auxquels
je
rêverais de jouer,
dire,
mais auxquels j'ai jamais eu le temps vraiment de jouer ou de finir, etc. Parce que avant de se faire des kiffs perso, Et eh ben il y a plein de fois, il y a plein de jeux auxquels on doit jouer. Et...
tellement de jeux qu'on a pas, qu'on rate tous quoi. On est tout le temps. C'est une réflexion.
Ouais, on en rate tous, j'en ai marre. On va aller jouer, on se casse.
Non mais c'est vrai, mais on se fait la réflexion tous les jours. Putain, j'ai pas eu le temps de jouer à ça, j'ai pas eu le temps de faire ci, on joue jamais assez, etc. Donc forcément, voilà. Mais moi j'ai résolu le problème, j'ai pas de vie. ça s'est fait, voilà.
Ça c'est fait. Allez hop là.
Et après, bon alors le pire, ça doit être Julo aussi. Mais sauf que toi, tu joues pas jusqu'à 4h du mat quoi. Bah si, encore, toujours plus Assassin's Creed.
Ouais. Ouais. Si, c'est en ce moment.
Ouais. Ça se voit pas, j'ai du mal à parler.
Alors que moi, je suis en plateforme, on regarde, oh là là là.
Ouais, là là là, bah moi aussi, voilà.
Julo. Tiens, vous voyez, il s'écroule comme une merde.
Non, effectivement, ouais, moi, je suis en train de jouer.
Assassin's Creed. On secoue la vidéo, c'est ouf.
Et j'ai plein de jeux encore, comme Traz, comme tout le monde ici. J'ai pas encore joué.
J'en ai plus que toi, moi, je te jure.
Sérieux? Bon, on fera
quoi? Oui, bah lui, il a commencé en 92.
En 91.
Donc, ouais, il y a énormément de boulot, clairement, et c'est vrai que nos journées sont pas super normales et
remplies.
Et quand tu dis avoir une vie normale, après, enfin je pense,
on se débrouille, au bout d'un moment on se débrouille aussi pour savoir quel jeu on n'a pas besoin de finir. Il y a certaines fois quand même, faut être honnête, hein, on finit pas tous les jeux qu'on teste.
Pas tous les jeux, faut pas rêver.
On finit ceux qui ont besoin d'être finis, mais il y en a plein qu'on sait comment les caractériser avant d'avoir
fini.
Quand
il y a une histoire, c'est important de la finir quand même pour voir. Les jeux moins de scénarios, oui effectivement, une fois qu'on a bien cerné le gameplay, voilà, le style, le visuel, le tout, bon.
Et puis en s'organisant entre nous, on arrive à se débrouiller pour que le plus possible, en tout cas, c'est pas encore parfait, mais pour qu'il y ait pas trois jeux qui tombent sur la même personne au même moment, quoi. C'est ça aussi après. Bon, voilà. Donc on essaye de se débrouiller, mais effectivement, non, on n'a pas une vie normale.
Voilà.
La déprime totale.
Mais bon, à la fois, on kiffe quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'est du boulot.
Heureusement que Mimic est là. Hein. On serait mort sinon.
Allez, BG Summoner nous pose une question. Pensez-vous qu'il est envisageable dans le futur de revenir en podcast sur des vieux sujets qui n'ont pas forcément eu le temps qu'ils méritaient lors des tout premiers podcasts qui ne dépassaient pas la demi-heure, là où aujourd'hui, il est rare qu'ils fassent moins d'une heure et demie?
Alors les trois premiers podcasts c'était des podcasts machines qu'on avait fait, hein.
Ouais.
C'était genre le podcast de la Wii, le podcast de la PS3, le podcast de la 360, donc ça on le refera
il
pas.
Il faisait
je
un
pense.
Quart d'heure à peu près.
Ouais, un truc comme ça. Je pense pas qu'on le refera.
Bon, on le refera tous les
quelle belle époque.
Deux ans, enfin on va laisser des laps de temps suffisants pour qu'il y ait des nouvelles choses à dire.
Mais après il y a des tas de sujets, je pense qu'on peut retraiter avec un angle différent.
L'art et le jeu vidéo.
Par exemple. Voilà, il y a au moins de quoi aussi, faire 10 podcasts je pense. Mais, c'est pas impossible.
C'est pas impossible. Dessus,
ouais, c'est pas impossible.
Bah, n'hésitez pas aussi. Hein, voilà, maintenant dans le courrier, vous allez avoir une fois par mois l'occasion de vraiment vous exprimer. Surtout, on sera là, on pourra prendre vos questions, vous y répondre.
C'est pas forcément des questions d'ailleurs. Hein,
ouais, c'est ça. C'est, ça peut être des idées,
des réflexions,
des sujets de podcast et tout. Bah, on va les prendre, on va tout lire, on va bien regarder. Puis comme ça, vous verrez les choses évoluer un peu grâce à vous, comme d'hab. Allez, nouvelle question, Sky Willy. Moi, j'aurais bien voulu savoir quel était le jeu de chaque rédacteur qui a vraiment changé sa vie de joueur. Julien C ne peut pas répondre. Metal Gear Solid, Julo ne veut pas répondre Shenmue, et quant à Raon, le futur lui donnera raison. Julo.
Julo, c'est mon premier, j'ai pas le temps de réfléchir.
Parce que t'es un génie.
Le jeu qui a changé ma vie.
Ouais, vraiment.
Le
jeu du foulard.
C'est quoi le jeu du foulard?
Parce que là, tu sais que je l'ai fait quand j'étais petit.
C'est con, c'est ce que je dis.
Et tu peux mourir.
D'accord, ok.
Tu tombes dans les pommes.
J'ai fait un cauchemar en orange.
Quoi?
Un cauchemar tout orange, j'étais dans une voiture et je...
C'était la couleur de la Dreamcast
au Japon.
Ouais.
Oui, au Japon.
C'était rouge. Ouais, enfin le
orangé,
le,
hein,
oui.
Japonais.
Ouais. Le logo est rouge mais la boîte et la première Dreamcast c'était orange.
Mais c'est quoi c'est...
Mais ça n'a rien à voir avec la question qu'on vient de poser.
C'est ça, je disais, mais où est-ce qu'on est?
Non, le jeu qui a changé ma vie, c'est celui qui a fait que je suis devenu dingue des jeux vidéo et donc c'est le premier je crois auquel j'ai joué. Donkey Kong sur ColecoVision. Télévision
sur ColecoVision.
Ouais, ColecoVision.
Le premier, tu veux dire en fait l'adaptation de Jumpman.
Ouais.
Moi aussi, putain, c'est dingue.
Donkey Kong. C'est ma première console et mon premier jeu.
Sauf que
vidéo.
Moi, c'était sur Yeno SC3000. C'était un vieil ordinateur de Sega à l'époque où Sega n'était pas représenté en France.
Ouais, mais t'as pas le droit de reprendre mon concept du premier jeu auquel j'ai joué.
Ouais, tu m'étonnes comme par hasard. D'accord.
C'était la réponse de Julo.
Traz.
Moi, je sais pas, il y en a plein. Pas franchement.
T'as pas le droit de répondre Monkey Island.
Non, parce que c'était même avant Monkey Island. Bon, il y a eu pas mal de jeux en arcade. Mais je crois que c'était chez un pote qui avait un Apple IIe. Et on jouait à un jeu de sport, multisport, des épreuves olympiques en fait. Et je me souviens notamment d'une épreuve de saut à la perche qui était extraordinaire. Mais vraiment, on a passé des heures rien que sur cette putain d'épreuve. On avait les doigts mais en feu tellement parce que la manette était pourrie évidemment. Et franchement, c'est ce jeu-là, je crois, qui m'a vraiment plu tellement que j'avais envie de continuer à voir ce qui allait se passer par la suite, me plonger dedans complètement. Je crois que c'est vraiment à partir de ce jeu-là. Par contre, je me souviens plus trop du nom. C'était sur Apple II, c'était un jeu de multisport. multi-épreuve olympique. C'était Olympics quelque chose, je crois. Mm. Voilà. Donc c'était.
De toute façon, à l'époque, les noms étaient très simples aussi.
Oui, c'était super simple comme ça.
Battle, fight,
ouais, voilà. Moto, ouais. Motocross.
C'était extraordinaire. Racing. Bref.
Rang.
Putain, j'en sais rien, quoi.
Bah, de toute manière, en plus, l'histoire va te donner
non,
raison.
Mais j'ai pas le droit. Je sais plus. Je crois que j'ai de vagues souvenirs des Voyageurs du Temps aussi. Je sais plus sur quoi je l'avais joué, mais c'était pas chez moi en tous les cas. Ouais. Et c'est souvent, je crois que d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui ont découvert les jeux par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre qui n'en a pas fait son métier, lui, mais peut-être pas tout seul en général. Mais
moi, c'est mon père.
Ah oui, oui.
Ouais. Je lui suis redevable.
Father,
Father.
Mais je serais bien incapable de citer un jeu en particulier. En fait.
Toi, t'as pas le droit de dire Final Fantasy VI non plus. Hein.
Ah merde, non, il n'y a pas marqué. Moi, il y a juste Metal Gear que j'ai pas le droit de dire.
Ah bon,
c'est
trop facile.
Ouais. Bah, je dirais alors... Metal Gear. Final Fantasy VI, effectivement. Pour tout, sa musique, son visuel, son histoire. Le stress qui m'a filé parce que je l'avais acheté en import une blinde et qu'à l'époque c'était Final Fantasy 3 en US et que je me disais mais putain pourquoi il s'appelle pas Final Fantasy 6, pourquoi
ah oui,
il s'appelait
oui,
pas Final Fantasy, est-ce que c'est vraiment le bon, voilà, ouais. Que du coup j'y jouais en import donc il fallait un adaptateur AD29 trafiqué parce qu'il marchait plus sur les AD29. Je suis très fatigué.
Je voudrais passer un message à celui qui fait les vidéos, comment il s'appelle, qui fait les
vidéos, je crois,
ouais, les mots inventés par Julien.
Ah oui, les nouveaux mots,
les nouveaux mots. Voilà.
Il y a
podcast. Du lourd dans ce podcast. Hein. Il y a Microsoft, il y a Puretin.
Je me rappelle pour l'anecdote, dès que je rentrais de l'école, je le mettais. Je mettais la musique de la carte à la flûte de Pan, etc. Je laissais toutes les portes ouvertes, j'allais pisser ou j'allais faire d'autres choses dans les toilettes.
C'est passionnant.
J'écoutais la musique et je me mettais dans l'ambiance et j'étais là. Et j'avais tout enregistré, Secret of Mana pareil, sur des cassettes audio.
Ah ouais, ouais.
Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait des CD de musique de jeux vidéo. Ouais. Et je me rappelle la première paye que j'ai eue avec Joypad.
J'ai tout cramé en CD.
Non, j'ai acheté un lecteur mini disque. Et ah oui. Il me restait un tout petit peu d'argent et je suis allé à. non, je suis allé.
Chez Concy.
Je suis allé chez Concy, ah ouais. Et j'ai acheté les.
Boulevard Voltaire,
de Final
voilà.
Fantasy VI, ah ouais. De Grand Final, la réorchestration de Final Fantasy VI. Enfin bon, voilà, un jeu qui m'a vraiment marqué. Mais il y en a plein d'autres. Hein.
Tiger.
Non, on a plus de temps, c'est bon.
Là. Le jeu qui a changé ta vie, non, c'est la question exacte, c'est ça. Hein
c'est ça. Qui a vraiment changé ta vie.
Moi, j'ai été baigné avec des jeux Super NES. Je suis un peu plus jeune que la moyenne ici, donc R-Type, le Super Castlevania, tout ça, ça m'a beaucoup marqué. Mais le premier jeu vraiment que j'ai eu en main, c'est le Astérix de Konami sur borne d'arcade. En
fait, pas mal du tout. Hein.
Qui était un excellent beat'em all. Et moi, mes premiers souvenirs de jeux vidéo, en fait, sont sur borne d'arcade. Et
j'en ai beaucoup aussi.
Ce qui me plaisait en fait, c'est bon, l'ambiance qu'il y avait dans les salles d'arcade et puis l'objet, la borne. Mmh. Et donc, voilà, mon premier contact qui m'a fait me rendre compte que les jeux vidéo c'était trop bien, c'est cette partie sur borne d'arcade. C'était un petit bar en Espagne avec Astérix de Konami qui était un super
flash. J'ai eu un flash des vieux jeux Exos moi aussi. Genre l'Archduke Captain Blood et ces trucs-là qui te faisaient voyager, mais d'une force, un truc de fou furieux. Alors que c'était rien, il n'y avait rien à l'écran. Quoi.
Bah, je me rappelle.
L'Arche du Capitaine Blood, je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est que des lignes et des points. Quoi. Ouais. Rien, c'est que dalle.
Moi, je me rappelle, pareil, en arcade, quand j'étais petit, il y en avait une qui se mettait sous le métro aérien à côté du bahut. Et moi, j'avais vraiment pas le droit d'aller là. J'ai eu la télé à 7 ans, les consoles, je devais y aller jouer chez mes potes et tout. Donc, j'allais là-dedans et il y avait un jeu de Formule 1 avec Baquet et tout. Donc, il devait être super ringard aujourd'hui. Hein. Mais ça bougeait, ça faisait du bruit et tu pouvais changer les vitesses et tout. Et genre, quand je mettais mes 10 francs, donc pour moi c'était énorme, donc vraiment c'était un sacrifice. Et j'avais acheté un autre jeu de Formule 1 sur Game Boy en me disant, ça se trouve, ça va être pareil. Et la déception de ouf et tout, ça bougeait pas, ça faisait pas de bruit, ça faisait.
Et le siège baquet était pourri aussi sur la version
Ouais,
Game
c'est
Boy.
Ça, ouais. Mais ouais, ça me faisait rêver
mais
quand même.
Tu me fais penser aussi, ouais, effectivement, quand j'étais môme, j'allais beaucoup. Mes parents allaient souvent prendre le petit café le matin, etc. Et j'allais tout le temps avec eux, il y avait toujours une borne d'arcade. Et c'était souvent les bornes d'arcade de Yu Suzuki, celles qui m'ont marqué, celles de Yu Suzuki. Ouais.
C'est bizarre. Hein.
Outrun, non, mais attends, c'est vrai, attends.
Oui,
excuse-moi.
Outrun, Space Arrière.
La borne Outrun et la borne Super Angon, mais
ah, oui,
au
Super Angon.
Avec la vraie moto où tu montes dessus et tout. Bref. Ça aussi, ça.
Ah, je peux dire
vraiment changer ma vie.
Je peux dire quand même, Super Mario World, juste un petit truc par rapport à Super Mario World, c'est le premier jeu que j'ai eu en fait, avec la première console que j'ai eu à moi, la Super Nintendo, que j'avais eu à Noël. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, il y a la carte du monde de Super Mario World, il y a le premier niveau, et à côté, il y a une espèce de petite montagne où on peut ramasser des pièces et tout ça. Et en fait, moi j'étais petit, donc j'étais pas très fort. Et arrivé sur cette montagne, je croyais que c'était déjà un truc extraordinaire. Ce qui fait qu'il fallait pas éteindre la console pendant qu'on mangeait. Et je regardais s'il y a rien qui se passait. Voilà, ça me faisait très flipper. Donc Super Mario.
T'es toujours aussi bon aujourd'hui en fait.
et tant de souvenirs de à table. Et à l'époque, il y avait pas de sauvegarde et tout, donc il fallait laisser la machine allumée.
Attends, faut que j'ai sauvegarde.
C'est ça. Non, mais il y avait pas de sauvegarde. Il fallait noter le code et tout, il fallait mettre pause. Enfin, c'était que de souvenirs.
C'était fou. Hein.
Allez, on va conclure ce podcast qui vous était dédié, le podcast Courrier des lecteurs, avec une dernière question de Chipster. Envisagez-vous de faire des podcasts en public?
Ouais,
eh bien oui.
Non, non, public, là, regardez.
Eh bien oui.
Allez, bonjour à tous.
On va en faire cette année.
Merci public.
On vous tiendra informé.
Mais les Stades de France, on va en parler pas tout de suite.
Mais ouais, vous inquiétez pas, il y aura des podcasts en public où vous pourrez venir ici
et même
assister
ce podcast-là,
au podcast.
Le podcast Courrier des lecteurs va probablement évoluer aussi.
Ouais.
On a des petites idées.
Exactement. Donc voilà, vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises dans les podcasts de Gameblog qui
tout
reviennent
fait,
dès la
Jean-Pierre.
Semaine prochaine avec un nouveau thème, de nouveaux débats. Vous d'ici là, eh bien dans les forums, n'hésitez pas à vous dire ce que vous avez pensé de cette version des courriers des lecteurs version podcast. Il y a encore plein de choses à améliorer, à affûter, à affiner, enfin tout ça. Et puis ça revient bien évidemment tous les mois désormais sur Gameblog. À la semaine prochaine. D'ici là, jouez bien et surtout portez-vous bien. Ciao.
Ciao.